Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Vincent.
Salut Romain.
Je suis très content parce que ce soir, et pour ceux qui regardent la vidéo en replay, on a un sujet dédié. C'est rare. Habituellement, on me reproche souvent de partir en couille en live. Tu sais, ça parle de tout.
Ça peut aussi ce
et
soir.
C'est vrai. À tout moment, on peut divaguer.
Jamais à l'abri.
J'espère que vous allez bien. Bonsoir YouTube, bonsoir Twitch, bonsoir Twitter. Maintenant, on est en multi-stream. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie, et en fait, pour être très sincère, je repars pendant une longue durée à New York. Vous le savez, vous le suivez en ce moment, toutes les péripéties et tout ce qui se passe entre innovation, business et tout ça, et ce qu'on partage sur la chaîne. Vincent m'a dit, je suis dispo là, avant que tu repartes, est-ce qu'on refait un sujet et tout ça? Et je me suis dit, ok, mais tant qu'à faire, on plonge dans le sujet où à chaque fois j'ai l'impression qu'on ne va pas assez en profondeur. Comment investir en bourse quand on est débutant? Récemment sur la chaîne, je vous expliquais les droits musicaux, un investissement exotique sur lequel je m'amuse depuis 3 ans. Et je me suis dit, il faut profiter d'être avec Vincent, qui est Country Manager France de Trade Republic, qui dirige aujourd'hui les équipes en France de Trade Republic, qui t'es de plus en plus sur des podcasts aussi, tu fais de plus en plus de contenu pour évangéliser. En fait, ce qui est fou, c'est que Trade Republic, à la fin, ça reste une entreprise, donc qui doit faire du business.
Oui.
Sauf que j'ai l'impression que tous les contenus que vous faites, c'est tout sauf pour faire du business. C'est surtout pour évangéliser une façon d'être et pour essayer de sensibiliser la population sur leur épargne.
Alors, en fait, c'est la raison d'être et pourquoi Trade Republic a été créé, c'est justement parce qu'il y a un problème, si tu veux. Et le problème, il est que les gens n'épargnent pas assez et n'investissent pas assez, parce qu'ils épargnent beaucoup en France, mais ils n'investissent pas assez, ce qui fait qu'ils ont moins de performance pour leur retraite, si tu veux. Et c'est de ce problème-là qu'est né Trade Republic. Et en fait, il y a une des causes du problème qui est le manque d'éducation financière. Donc en fait, au lieu de faire de la pub sur nos produits, c'est beaucoup plus pragmatique d'aller faire de l'éducation financière pour que les gens sachent se prendre en main par eux-mêmes, si tu veux, et arrêtent globalement de se faire avoir avec des produits de mauvaise qualité qui n'ont pas de performance, si tu veux. Ils prennent en main leur épargne et ensuite, étant donné que je suis assez convaincu qu'on a le meilleur produit, si tu veux, les gens vont venir mettre leur épargne chez nous. Très simple.
Et on va vous en parler, sur quelle plateforme le faire, comment le faire, mais en fait, au-delà du côté... vraiment, vous allez le voir dans ce contenu-là, et ça ne sera pas 40 minutes de tuto, et on ne va pas vous conseiller des actions, on va pas... Enfin, moi, je ne suis personne pour vous dire dans quoi investir, de quoi faire, etc. Par contre, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre, en fait, l'état d'esprit dans lequel être et comment considérer l'argent, parce que je pense qu'il y a différentes façons de considérer l'argent en fonction de l'argent que vous détenez. Il y a de l'argent qui peut être fait pour s'amuser, il y a de l'argent qui est fait pour être investi, il y a de l'argent qui est fait pour vivre, et je pense que c'est important donc vraiment de parler de cet état d'esprit-là. On va aussi effectivement parler concrètement de comment est-ce qu'on investit dans sa première action en bourse, comment ça se passe. Est-ce qu'il faut tout le temps la regarder? Est-ce qu'il faut vendre quand on pense qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut jouer au trader? Est-ce que... Pas tout confondre, voilà, je pense que c'est important aussi. Mais le but, c'est de le faire avec vous, puisqu'on est en live, donc c'est de profiter aussi du chat. Et à la fin du live, je prendrai toutes les questions que j'ai eues là sur Instagram. Si vous m'ajoutez sur Instagram, Romain Lanéry, vous avez aussi le compte de Trade Republic que vous pouvez suivre. J'ai posé tout simplement une story avec la possibilité pour vous de poser des questions. Donc comme ça, j'aurai aussi tes réponses.
Et puis, il n'y a pas de mystère, si tu veux. Ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'on laisse croire qu'investir, c'est compliqué. Qu'on utilise des mots compliqués pour parler d'argent, pour parler d'épargne, pour parler de produits financiers. Ça laisse entendre que les gens ne sont pas capables, en fait, de le faire par eux-mêmes. Ce qui est un très, très gros mensonge, si tu veux. Donc, on essaie de rétablir cette vérité et de redonner confiance.
J'avais vu la stat, c'était plus de 53% des gens aux US, de la population américaine investie, et un peu moins de 20% encore en France, même si c'est en progression, c'est de plus en plus, mais c'était juste...
C'est historique aussi, si tu veux.
Ouais.
Aux États-Unis, les gens se constituent leur retraite par eux-mêmes, via des fonds de pension, qui eux-mêmes investissent dans des ETF, dans des actions.
D'accord.
En France, c'est pas vraiment le cas, si tu veux. En France, c'est l'État qui s'occupe de gérer les retraites pour tout le monde. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas comment c'est investi, mais on te dit, t'inquiète pas, ta retraite, elle est garantie. Ce qui est pas faux. Par contre, le montant de ta retraite, lui, il n'est pas garanti. Donc, tu sais que tu vas en avoir une, mais tu ne sais pas quel montant ça sera.
Et tu ne sais pas quel sera le coût de la vie quand tu l'auras.
Exactement.
Aussi, la retraite. Parce qu'avec l'inflation, dans 50 ans, tu ne fais pas la même chose avec 1 000 euros aujourd'hui que dans 50 ans. Quoi.
Et on appelle ça le taux de remplacement.
D'accord.
Le taux de reversion. En gros, c'est combien de pourcentage de tes anciens salaires tu vas percevoir à la retraite si tu as cotisé tout le temps.
D'accord.
Si tu as cotisé toute ta vie dans le cas d'un salarié. Et en fait, ce taux fait que baisser. Donc, si ton salaire n'augmente pas, au final, tu vas te retrouver à la retraite avec beaucoup moins de revenus que ce que tu avais quand tu travaillais, avec un coût de la vie qui sera plus cher que quand tu travaillais.
Ok.
Ce qui est, tu vois, incohérent.
Donc, c'est trop intéressant. Enfin, comment passer à l'action ? C'est ce qu'on va voir là ensemble en live. Il y aura une rediffusion. Bonsoir tout le monde pour tous ceux qui sont sur Twitch, YouTube et Twitter. Si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, si ce n'est pas encore le cas, faites-le maintenant. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube, c'est simple. Alors maintenant, pour reprendre le planning de la chaîne YouTube.
Oui.
Le mercredi soir, on est en live. Le jeudi soir, il y a une nouvelle vidéo chaque semaine. Et maintenant, et c'est tout nouveau, et vous avez le lien dans la description, vous êtes les premiers à qui je le dis, vous avez le lien dans la description là sur le live YouTube, je ne sais pas si on l'a déjà mis à jour, si les équipes l'ont mis à jour sur Twitch, déjà maintenant, les contenus seront disponibles au format podcast.
C'est sur les plateformes
tout
Spotify,
podcast. Exactement, ça y est, on nous le demande depuis longtemps, il fallait juste que je remette en place aussi un système pour correctement le faire et pour avoir un vrai truc à proposer. On a repris tous les contenus les plus forts, ceux qui vous ont le plus plu, toutes les interviews, le 20 minutes avec Mathias Bacino de Trade Republic. Tout ça, c'est disponible sur les plateformes de podcast dès maintenant. Vous tapez Romain Lanéry sur Apple Podcast, sur Spotify, Google Podcast. Vous demandez à Siri de le jouer, vous demandez à Google de le jouer. C'est d'ores et déjà dispo. Si vous avez envie de vous refaire des contenus, si vous êtes en voiture, si vous êtes au sport, si vous marchez dans la rue et que vous avez envie juste de brainstormer sur des idées, bah plutôt que d'être là collé à votre écran, profitez de l'air libre, regardez ce qu'il y a autour de vous et puis écoutez un contenu qui peut vous aider à penser à plein de sujets. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je suis trop content en tout cas de vous l'annoncer, vous êtes les premiers à qui je le dis. Bonsoir, je découvre ta chaîne Twitch. Ben, merci beaucoup, Evento, bienvenue. J'ai une question, si je souhaite m'inscrire à un club actionnaire, comment trouver sur Trade Republic un justificatif de détention des titres? Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Tu sais que je me suis inscrit au club actionnaire LVMH.
T'as eu la bouteille de champagne du coup?
Ah non, je l'ai pas demandé.
Ah bah quand t'es inscrit au club actionnaire, t'as les avantages des actionnaires. Après, ça dépend du nombre de titres que tu détiens. Et en fonction du nombre de titres, il y a des cadeaux d'actionnaires. Donc au-delà du fait de pouvoir participer aux assemblées générales et autres,
oui.
Je savais pas. De temps en temps, t'as des petits cadeaux. Et LVMH, il me semble que c'est une bouteille de champagne.
Alors je n'investis pas en bourse pour avoir une bouteille de champagne ou pour être dans le club actionnaire.
Ça fait toujours plaisir.
Non, c'est ça. Et c'est chouette, en fait, il y a des entreprises qui, pour remercier leurs actionnaires, créer quelque chose, enfin un club, pour essayer d'avoir une cohérence, une communication directe avec leurs actionnaires. Et dès lors que vous allez détenir une action d'une entreprise, vous êtes actionnaire. Même si vous avez mis 1 euro via Trade Republic ou 10 euros, eh bien vous serez actionnaire, même d'une partie d'une action, mais vous serez actionnaire.
Il me semble quand même que pour pouvoir s'inscrire au club, il faut avoir une action entière.
D'accord.
J'ai un doute. C'est à voir avec les clubs d'actionnaires, en fait, dans les conditions qui t'offrent. Mais il y a des trucs un peu drôles là-dessus.
Pour avoir du jus de pomme, exactement.
Il y a une action, tu vois, d'une société qui gère les remontées mécaniques à la montagne.
Ouais.
Et si tu détiens un certain nombre d'actions, tu as le droit à 3 ou 4 jours de forfait dans l'année qui te sont offerts, si tu veux, quand tu es inscrit au club d'actionnaires. Oui, c'est très drôle. Chez Air Liquide, par exemple, tu as 10% de dividendes en plus. Parce que tu es un actionnaire, si tu es dans le club des... au nominatif administré, donc si tu es connu du club actionnaire en tant que personne, si tu veux. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont assez drôles et assez marrants et assez peu connus finalement.
Pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, on vient d'arriver là sur le contenu, on n'est pas encore abonné à la chaîne YouTube, mais là, ils sont en train de le faire. Il se passe quoi là maintenant avec Vincent, juste pour comprendre ton background? Pourquoi est-ce qu'il y a Vincent en live?
Aujourd'hui, on débunk la bourse. On débunk les concepts et on essaie d'expliquer avec des mots simples pourquoi c'est important et comment il faut faire.
T'es qui?
Moi, je suis Vincent, je suis le directeur France de Trade Republic, la plus grosse plateforme d'épargne pan-européenne. On n'est pas forcément la plus grosse en France, mais pan-européenne, on est la plus grosse. 4 millions de clients, 35 milliards d'euros sous gestion.
Avant Trade Republic, tu faisais quoi?
Avant Trade Republic, j'étais dans l'épargne déjà. J'ai travaillé assez longtemps chez Bing Bank, qui a été racheté par Saxo Bank, suite à quoi j'ai eu quelques divergences sur la vision de l'épargne par rapport aux Français. Et ensuite, j'ai fait un petit peu de conseil pendant 2 ans avant de rentrer dans l'aventure Trade Republic, quelques mois après le lancement de Trade Republic en France.
Ok, super. Bah voilà, maintenant que vous savez avec qui vous allez passer une heure pour comprendre comment investir en bourse quand on est débutant, en fait, je me suis dit, viens, on prend vraiment mais la question à la con, parce que c'est une question où, quand tu le fais, tu te dis, bah, c'est pas si compliqué, tu peux demander à ta banque, tu peux avoir une application externe, mais finalement, les gens autour de moi ne passent pas le premier pas parce qu'ils ne trouvent pas ça... On a rendu ce truc-là tellement complexe que les gens se disent tout seul, je suis incapable de le faire.
On a laissé comprendre aux gens que c'était complexe. Et pour tu vois ce que je te disais tout à l'heure pour la retraite, on L'État s'occupe du sujet le plus important, au final, en termes d'épargne pour les gens, c'est d'avoir une retraite. C'est ça le principale motivation pour épargner. Donc, tu rajoutes à ça le fait qu'il n'y a aucune éducation financière qui est faite par les institutions, à savoir à l'école. Mais en fait, les gens ne connaissent pas et s'y intéressent pas, si tu veux. Sauf que tu te rends compte maintenant que les prix de tout ce que tu achètes sont en train d'augmenter, que les intérêts ont monté, donc c'est beaucoup plus compliqué pour emprunter si tu veux t'acheter un appart ou une maison. Et ça en fait, c'est ce qui se passe sans que tu aies de pouvoir. Tu peux jamais agir sur l'inflation, tu peux jamais agir sur les taux d'intérêt. Par contre, ce sur quoi tu peux agir, toi, c'est ta capacité à avoir de l'argent.
Comment contrer ce que tu subis ?
Exactement.
Okay.
Comment contrer l'inflation, si imaginons l'inflation à la 4% dans l'année, tu contres l'inflation si ton épargne te rapporte 4%.
Ok, je comprends. Pour répondre à Tutur, à la fin, sur comment est-ce qu'on trouve le justificatif.
On a des
j'ai même pas.
On
mais
a,
oui, c'est le jeux. Live, désolé.
Alors, habituellement, il y a des relevés, en fait. Les clubs d'actionnaires utilisent les relevés bancaires classiques. Donc, tu peux trouver les relevés dans l'application. Tout en haut de l'application, il y a un petit rond, une petite pastille avec la première lettre de ton prénom. Si tu cliques dessus, tu as une catégorie relevé et tu vas voir les relevés de position. Tu peux donner ça au club d'actionnaires. Pour certains, ça suffit. Pour certains, ça ne suffit pas. Si ça ne suffit pas, tu peux envoyer un petit email ou contacter le service client via l'app. Dans cette même catégorie, il y a un bouton aide et contacter le service client. Et ils vont t'en donner un justificatif avec en tête et autres qui te permettra de te faire enregistrer auprès du club actionnaire.
C'est quoi la bourse ?
Alors,
faut commencer par là, non ?
Ben, la bourse, c'est...
J'ai prévenu, question un peu candide, mais au moins j'ai envie que vraiment vous puissiez partager cette vidéo à votre sœur qui a 14-15 ans, à votre mère qui en a 50, et en fait que tout le monde puisse comprendre.
La bourse, c'est comme un marché, celui où tu achètes tes légumes et tes fruits, avec un mélange de ventes aux enchères. Donc les prix ne sont pas fixes, mais ils dépendent essentiellement de combien tu as d'oranges à vendre et combien il y a de personnes qui sont prêtes à en acheter. C'est la loi de l'offre et de la demande, tu sais. Et une bourse, c'est juste un endroit où les gens achètent et vendent des actions, des ETF, et peu importe l'acronyme, peu importe ce que c'est un endroit où les gens achètent et vendent des produits financiers.
Voilà, pour être okay.
D'une manière synthétique.
C'est quoi une action en bourse ?
Une action, pour faire simple...
C'est un légume !
C'est un légume. Non, une action, c'est quand tu achètes une part de l'entreprise, simplement. Une action d'entreprise, c'est une part de l'entreprise. Et ça a une certaine valeur qui, elle, dépend de l'offre et de la demande. Mais une action, c'est une part de l'entreprise. Donc, ça te donne des droits tels que voter aux assemblées générales, percevoir un dividende si l'entreprise a fait des bénéfices dans l'année.
Donc, un dividende, c'est un plus.
C'est l'entreprise qui donne de l'argent à ses actionnaires parce qu'elle a fait un résultat net positif. Voilà, l'entreprise a gagné de l'argent l'année dernière, et ben elle décide de mettre une partie de cet argent en réserve pour les années futures en cas de coup dur, et de remercier ses actionnaires, donc de les rémunérer pour le risque qu'ils ont pris d'acheter ces actions-là, elle lui redonne une partie en cash.
Est-ce que toutes les entreprises sont cotées à la bourse ?
Non. Non, non, il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui sont cotées en bourse. Et t'en as des dizaines de milliers, des centaines, voire des millions d'entreprises qui ne sont pas cotées, si tu veux. Ton plombier dans ta ville n'est pas coté en bourse, si tu veux, alors même que c'est une entreprise. Par contre, c'est généralement les grosses entreprises qui sont cotées ou celles qui ont besoin de financement.
Ça sert à quoi pour une entreprise d'être cotée en bourse ?
On va prendre un cas concret ?
Ouais.
Écoute, t'as monté, une entreprise de qui fabrique de l'industrie, tiens, qui fabrique des clous.
Ouais.
T'as monté l'entreprise, t'as besoin de te développer encore plus. Ta vente de clous, elle se passe bien en France, mais là, tu veux attaquer le marché international, tu veux commencer à vendre tes clous en Allemagne, en Belgique et autres, et t'as besoin d'argent pour aller embaucher, par exemple, des commerciaux en Belgique, en Allemagne, plus de monter une nouvelle usine.
Donc, tu veux faire grossir ton entreprise.
Tu veux faire grossir ton entreprise et t'as besoin d'argent. Et bien, qu'est-ce que tu fais ? T'étais propriétaire, par exemple, à 100% de ton entreprise. Tu dis, moi, je vais mettre 40% des actions de cette entreprise-là. Donc, tu donnes 40% des 100% que tu avais. Tu le donnes sur le marché. et tu récupères l'argent des gens, si tu veux. Les gens qui t'ont acheté ces actions-là.
C'est quoi le risque ?
Pour qui ?
Pour l'entreprise, parce que je me dis, t'as envie de faire grossir, par exemple, moi, si j'ai une entreprise de clous et que je veux la faire grossir, pourquoi est-ce que j'essaierais pas d'aller voir des business angels, des gens qui ont de l'argent ou des banques pour financer plutôt que d'être coté en bourse ?
C'est une autre solution. En fait, c'est une solution alternative de financement. Okay. Et généralement, les entreprises font d'abord des levées de fonds type série A, B, C.
D'accord.
Et ensuite, elles vont s'introduire en bourse. On parle d'IPO, si tu veux. On voit régulièrement dans les news online parler d'IPO ou d'ICO quand c'est par rapport à la crypto. Il n'y a pas de risque spécifique. Par contre, tu as des obligations supplémentaires quand tu es introduit en bourse. Tu dois être beaucoup plus transparent sur tes résultats. Tu dois être plus transparent sur les résultats des audits qui ont été faits sur ta comptabilité, sur tes processus.
Est-ce que ça veut dire qu'une entreprise cotée en bourse est plus fiable qu'une entreprise qui n'est pas cotée en bourse ?
Pas forcément.
Ok.
Non, des scandales sur des entreprises qui sont cotées en bourse, ça existe si tu veux.
Ok. Non, c'est pour aussi comprendre le risque. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup cotée ?
Cotée, ça veut dire que tu peux acheter et revendre ces parts de l'entreprise sur un marché électronique, réglementé, facilement.
Ok.
Tu vois, t'as une action, ton action LVMH, là, tu veux la revendre. Tu cliques sur vendre. Okay. Tu dis à quel prix tu veux la revendre. Et à partir du moment où il y a un acheteur qui est prêt à l'acheter au prix que tu as demandé, bah, elle sera vendue à cet acheteur-là.
Donc, pour comprendre, tu as une entreprise, elle est valorisée, c'est-à-dire que l'entreprise a comme valeur entre les résultats nets qu'elle fait, le business et tout ça, elle a 1 million d'euros.
La valeur de l'entreprise, imaginons, c'est la somme de la valeur de toutes les actions.
Ok. Donc, imaginons que tu es une entreprise de clous qui est valorisé 1 million d'euros.
Ouais.
Tu décides de faire grossir l'entreprise et pour ça, il te faut 400 000 euros. Donc, tu te sépares de 40%.
Oui.
Ça veut dire que chaque action va coûter 1 euro.
Ça dépend le nombre d'actions.
Ça dépend le nombre d'actions, oui, parce que tu peux en mettre plus ou moins en fonction de la
exactement
valeur. Ok. C'est listé, donc c'est listé sur un marché,
ouais,
comme tes fruits et légumes,
exactement,
électronique. Tu as des actions et là, à ce moment-là, tu as des gens qui ont entendu parler de ton entreprise,
et
qui peuvent arriver.
Donc tu vends tes 400 premières actions.
Ok.
Et ensuite, les gens se les achètent et se les vendent entre eux.
Ok.
Et si, par exemple, tu as plus de gens qui veulent acheter l'action que de gens qui en vendent, le prix va augmenter. Parce que tu as plus de demandes que d'offres.
Même si l'entreprise pue la merde.
Même si l'entreprise pue la merde.
C'est quand même un petit peu corrélé.
J'ai répété un gros mot, mais oui.
Mais non, c'est vrai. Mais non, mais en même temps, c'est vrai. C'est que c'est important de l'expliquer. La bourse, ça n'a... Et j'ai mis longtemps à comprendre.
Regarde, Orpea, cas concret.
Je connais pas.
C'est une société qui fait des EHPAD.
Ok.
Il y a eu un gros problème dernièrement sur la gestion des EHPAD et il y a eu des scandales qui ont été faits sur la maltraitance des gens dans ces EHPAD-là. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es retrouvé avec un nombre incroyable d'actionnaires qui ont voulu revendre du coup les actions de cette entreprise-là.
Alors que la
immédiatement,
okay,
parce que l'entreprise était soumise à un scandale.
Alors qu'elle continuait de gagner de l'argent et que l'argent allait bien en fait dans l'entreprise, même oui, si elle est scandale. Non mais
oui,
c'est juste pour séparer
oui
le truc, c'est ça qui est important. Oui, ok.
Mais du coup, ça a entraîné quoi ? Ça a entraîné une chute drastique du cours de l'action, si tu veux.
C'est pour ça qu'on explique souvent que les détenteurs d'actions, ceux qui ont énormément d'actions, je pense par exemple à des Tim Cook chez Apple, à des gens,
oui,
il suffit que vous voyez demain un article comme quoi Tim Cook commence à vendre ses actions, Apple a beau aller super bien, ben ça ne va pas vous donner un bon feeling, vous allez vous dire « Oh là là, si Tim Cook vend ses actions, peut-être qu'il sait des choses que nous, on ne sait pas ». Ça peut entraîner des choses comme ça, c'est juste pour faire comprendre aussi aux personnes qui découvrent la bourse que parfois, les mouvements boursiers ne sont pas corrélés aux résultats de l'entreprise. Il faut juste bien l'avoir en tête.
Après, voilà, tu vois, ce qu'on vient de se dire là, pour moi, c'est déjà, tu n'es plus dans un niveau débutant.
D'accord, ok. Non, mais je trouve ça important.
Tu vois, tu es déjà sur un niveau intermédiaire.
Ok.
Quand on arrive à regarder la santé d'une entreprise, quand on arrive à te renseigner sur est-ce qu'elle est bien ou pas bien, honnêtement, tu es déjà un petit peu intermédiaire.
Ok. C'est intéressant. Ok, je pensais
y a,
pas.
Il y a vraiment beaucoup plus simple que ça.
Ok. Ça serait quoi pour toi le premier truc très simple à comprendre ? Pour résumer sur ce qu'est la bourse, etc.
Le premier truc très simple, t'as pas le temps, t'y connais rien, bah t'achètes un ETF monde.
Ok.
Et c'est quoi un ETF monde ? C'est un produit financier qui regroupe l'ensemble des plus grosses capitalisations mondiales. Donc l'ensemble des plus grandes entreprises au monde. Il y en a 1600 à peu près dedans.
C'est un paquet Kinder Surprise au supermarché. Sauf que c'est pas des surprises.
C'est pas des surprises. Ouais. C'est-à-dire que t'achètes toutes les marques d'un coup.
Ok.
Tu sais pas quel jus d'orange choisir. Okay. Et ben t'achètes une bouteille de toutes les marques de jus d'orange.
Et ça, tu l'achètes parce que tu te dis que le jus d'orange sera de plus en plus meilleur.
Et parce qu'il y en a forcément un qui va être bon et t'en as forcément un qui va être pas bon. Okay. Mais ça, tout va se compenser. Okay. Parce que ça rejoint une des règles de base de la bourse, c'est que plus tu diversifies, moins tu as de risques. Si tu achètes 5 actions, qu'il y en a une qui va mal, les 4 autres, elles compensent. Tu as beaucoup moins de chances d'avoir 5 actions qui vont mal que une action qui va mal.
Tu vois ? C'est vrai.
Donc en fait, la diversification, c'est la clé du débutant et c'est même la clé de l'intermédiaire et du niveau expert, si tu veux. C'est très important, et quand tu n'as pas le temps et pas la connaissance pour aller plus loin, ETF. Parce que t'arrêtes d'acheter une action, tu les achètes toutes.
Et ça peut être aussi intéressant quand vous aimez des industries en particulier. Vous aimez les nouvelles technologies, vous avez des ETF qui regroupent les entreprises tech dans le monde. Vous aimez le luxe,
le
vous
Nasdaq,
avez
le Nasdaq. Clairement, c'est les entreprises tech américaines, si tu veux.
Le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Ouais. Et donc là, tu pourrais te dire, si je pense que l'économie française va continuer de croître, je peux parier sur...
Eh ben, c'est un peu plus compliqué que ça.
Ah ouais ?
Ben oui, parce que quand tu regardes les entreprises du CAC 40, tu te rends compte que, par exemple, LVMH, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais elle fait moins de 30% de son chiffre d'affaires en France. Le chiffre d'affaires de LVMH est généré à l'international.
T'as raison, c'est est-ce que les 40 plus grosses marques françaises vont continuer de croître, mais pas forcément
exactement.
En France.
Exactement.
Ok, je comprends.
Tu vois, par exemple,
t'as raison, la nuance est importante.
L'économie en Chine ralentit, ça peut avoir des impacts sur LVMH en France.
Complètement.
Donc
Ok.
Encore une fois, c'est un concept où dès que tu en es là, c'est vraiment déjà que tu as fait un bon bout de chemin, si tu veux. Et c'est vraiment très compliqué d'acheter une action, de l'acheter pas cher et de la revendre cher. C'est très dur, ça demande du temps. Déjà parce qu'il faut se renseigner, il faut suivre l'actualité, il faut potentiellement savoir lire le bilan d'une entreprise, savoir digérer un compte rendu de
pour moi, c'est un métier. Si ton métier ou si tu ne fais pas des études dans la finance pour par la suite devenir trader... Je vais vous donner je vais prendre vraiment juste mon cas. J'aime beaucoup m'intéresser aux entreprises. Je parle à beaucoup de patrons, etc. Et bien pour autant, je vous assure que les mouvements sur mes comptes titres, en moyenne, j'ai regardé la dernière fois, c'est tous les 3 ans. C'est-à-dire que ma moyenne à d'acheter et de vendre, en moyenne, c'est tous les 3 ans.
Mais c'est,
et c'est déjà beaucoup. C'est déjà pour moi un rythme élevé.
Oui, c'est déjà un rythme élevé parce qu'en fait, tu peut pas espérer gagner de l'argent en bourse sans t'y connaître en faisant des allers-retours comme ça tous les 4 matins si tu veux. Ça fonctionne bien si t'es diversifié, donc tu mets pas tous tes œufs dans le même panier et tu les mets pas tous en même temps, t'investis progressivement dans l'action. Et après, plus tu restes longtemps, plus t'as de chances de gain si tu veux.
Okay.
C'est vraiment ça la clé.
Donc tu parlais du DCA.
Là, je te parlais du DCA, Dollar Cost Averaging.
Donc ça, c'est un moyen pour investir petit à petit, de façon régulière,
ouais,
dans des ETF, quand on est débutant, en tout cas.
Ou même dans des actions, si tu veux, ou dans une action spécifique, si tu veux. Ça, c'est le DCA, c'est la méthode. C'est celle qui te permet de plus te poser la question si une action est chère ou pas. Parce qu'en fait, tu achètes exactement le même montant en euros à des fréquences régulières. Donc tu dis... Et ça peut marcher pour le Bitcoin également. Tu peux dire, moi, je mets 50 euros, j'achète 50 euros de Bitcoin par mois, ou d'action LVMH, 50 euros d'action LVMH, ou 50 euros d'un ETF monde. Et après, en fait, du coup, tu t'en tapes complètement de par où le marché va.
Mais qu'est-ce que tu réponds, du coup, aux gens qui te disent, OK, mais si j'achète tout le temps, dans 5 ans, en fait, j'aurai la même valeur qu'aujourd'hui, parce que j'aurai jamais laissé le temps à mes précédentes actions de prendre de la valeur, parce que je continuerai d'en acheter.
Ah bah si, parce que si tu mets 50 euros par mois, par exemple, sur une action LVMH, ces 50 euros-là, ils ont toute la durée de vie.
Oui, mais si tu continues de les rajouter quand...
Mais au bout d'un moment, tu as un portefeuille, imaginons du coup, ça fait un an que tu as déjà 600 euros d'action LVMH, le 13e mois, tu rajoutes que 50 euros d'action LVMH, donc ça ne vient pas impacter énormément ta performance, la nouvelle, si tu veux.
Non, c'est
assez mathématique.
Mais je fais exprès toutes ces questions. Enfin, vous me connaissez, je sais que vous savez qu'on en parle beaucoup et j'ai déjà beaucoup de réponses. je voulais aussi t'inviter pour avoir plus d'éléments, plus de détails. Donc c'est vraiment, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat et dans les commentaires si vous regardez cette vidéo, puisqu'on continue de travailler évidemment beaucoup avec Trade Republic, qui est l'un de nos gros partenaires cette année. Et je trouve ça trop intéressant parce que ça nous permet d'avoir accès, du coup, sans faire ces collaborations-là, d'avoir accès à des personnes très intéressantes comme Vincent aujourd'hui.
J'ai vu une question très intéressante, c'est par rapport aux frais. Mais en effet, la question, c'est est-ce que le DCA, ça diminue les frais ? En fait, l'important, ici, pour tout, que tout le monde comprenne bien, c'est que les frais, c'est de l'argent que vous donnez qui ne va pas dans votre épargne. Et on a parlé d'une notion des intérêts composés. On en a parlé, il me semble,
Pas encore. Mais est-ce qu'on peut rester sur les frais ? Est-ce qu'on prend les frais juste un petit peu plus tard ? Parce que je voulais d'abord avoir la psychologie de l'argent. Investir, etc. Beaucoup se disent « j'ai pas l'argent, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas… »
Les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Donc, moi, je pense qu'il y a quand même un élément, et c'est plutôt psychologique à comprendre, c'est comment, toi là, tu reçois ton salaire, ouais. Comment tu différencies ce que tu vas avoir pour t'éclater, ce que tu vas avoir pour payer le loyer, ce que tu vas avoir pour vivre, et à quel moment tu te dis, parce que souvent les gens, ils passent le mois, et à la fin du mois, ils se disent « bon, ce mois-ci, j'ai pas assez, c'est pas grave, j'investirai plus tard. »
Ouais, c'est un petit problème psychologique.
Comment tu fais pour considérer…
Je pense qu'il se règle avec l'âge, celui-ci, si tu veux.
Ok.
Parce que l'idée, c'est pas non plus de dire aux gens de se priver, de pas vivre leur vie, tu vois. Vraiment, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, c'est pas tant ça le sujet. Moi, ce que je fais, je connais mon montant de charge fixe mensuelle, si tu veux, des emprunts ou des choses comme ça. Donc je mets ça directement de côté pour payer ses charges fixes, et après, avant de dépenser pour ensuite mettre de côté ce qui me reste, je me verse mon épargne d'abord. Donc je mets de côté au début de mois et je dépense ce qui reste, je fais pas l'inverse. Donc c'est assez rigoureux, si tu veux, comme approche. C'est quelque chose que j'avais pas forcément il y a 2 ans, que t'acquiers aussi avec potentiellement un peu plus de maturité. Et c'est sans jugement, hein, complètement, les choses évoluent.
Non, mais ils le savent, hein. On est donc, très libre là-dessus,
chacun,
bien sûr.
Chacun fait en fonction de ses capacités, si tu veux. Mais je pense que c'est important de se payer soi-même avant de payer les autres, quand tu as reçu ton salaire. Parce qu'en fait, quand tu achètes des trucs, ou que tu vas au restaurant ou autre, tu payes les autres. Pour un service que tu consommes, hein, il n'y a pas de problème, mais tu payes les autres.
C'est intéressant.
Alors que quand tu épargnes, ouais, tu te payes toi. Et voilà, c'est une notion que moi-même j'ai mis du temps à acquérir, mais maintenant...
Et tu résistes dans le mois à pas te dire « tiens, je vais revendre parce que là, ça a quand même bien monté. Alors ce que j'ai mis de côté, ou même avant même d'investir, non, ce que j'ai mis de côté, bon, finalement, j'en ai un peu besoin, je le redébloque. »
Ça dépend de ton projet. Une chose à faire qui est primordiale avant de se mettre à investir, c'est de se mettre une épargne de précaution de côté. Une épargne de précaution, c'est quoi ? C'est de l'argent que vous pouvez avoir rapidement, sans contrainte. Si elle vous rapporte un petit peu d'argent, c'est encore mieux. Mais c'est quelque chose qui peut vous aider en cas de coup dur. Il t'arrive, je ne sais pas, une grosse connerie. Tu as besoin d'un peu d'argent pour payer une amende incroyable. Ou tu as un gros problème. Je ne sais pas, ta voiture casse et c'est indispensable que tu l'aies pour aller bosser. Ou peu importe. Il faut que tu aies de l'argent comme ça qui soit disponible à chaque instant pour toi.
Ça s'appelle le cash flow.
Alors moi, j'appelle ça l'épargne de précaution.
D'accord.
C'est celle que tu utilises quand tu as un problème, si tu veux. Et celle-là, par exemple, pour qu'elle soit disponible, il y a un moyen très simple, c'est le livret A, tu vois. Ton livret A, tu mets ton épargne dessus, tu peux récupérer l'argent tout de suite. Et ça, vraiment, ça t'aide. On considère généralement qu'il faut 3 mois de dépenses en épargne de précaution.
Ok.
Donc si, je ne sais pas, tu as l'habitude de dépenser 1 500 € par mois, d'abord, tu mets 4 500 € sur ton livret A. Et après seulement, tu peux commencer à envisager d'acheter une action, des ETF et d'investir.
Tu conseilles encore le livret A ?
Le livret A, c'est tu l'as. L'argent, souvent, c'est adossé avec ton compte courant. Alors, j'ai dit livret A pour pas forcément parler de Trade Republic, si tu veux.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, tu ouvres un compte sur Trade Republic, tu es déjà à 4...
Tu payes 4% d'intérêt sur le compte courant.
Ça veut dire que... Attends, juste pour expliquer, je sais que toi, t'es pas bon vendeur. Il a pas envie de vendre. Je rigole, mais il sait que Trade Republic est tellement bien qu'il a pas envie. Mais moi, je le dis juste.
On est là pour faire de l'éducation financière.
C'est vrai.
Que je produis, si tu veux.
C'est vrai. Mais là, vous avez de toute façon toujours le lien dans la description où, si vous voulez être curieux et si vous voulez regarder Trade Republic, vous ouvrez votre compte Trade Republic. La première chose que va vous conseiller Vincent, encore une fois, parce qu'il veut que vous puissiez prendre confiance avec le produit, c'est déjà envoyer 10 € vers Trade Republic, retirer 10 euros ou plus.
Ça, il faut le faire avec Trade Republic, mais il faut surtout le faire avec toutes les plateformes d'épargne, si tu veux. C'est une règle de base. Tu peux pas... tu sais, tout se fait par Internet, via des apps, machin. Tu vois, nous, par exemple, on n'a pas de guichet physique. Tu peux pas aller...
pas venir te taper la gueule s'il y a un problème. Ouais, je vois.
Non, mais du coup, il faut vraiment faire attention à quel partenaire financier tu choisis. Et vraiment, la base de la base, c'est quand tu ouvres quelque chose sur une plateforme, tu mets de l'argent, un petit peu, 10 euros, c'est très bien. Tu l'envoies, tu vois si ça arrive bien sur le compte. Et surtout, après, tu le retires pour tester que ça marche aussi dans ce sens-là, que tu peux bien récupérer l'argent. Une fois que tu as fait ça, tu peux déjà aller mettre un tout petit peu plus d'argent. Mais c'est vraiment une règle de base.
Et l'argent que vous déposez sur Trade Republic qui n'est pas investi vous rapportera 4% brut de rendement.
Exactement.
Aujourd'hui.
4% brut, c'est sans condition, si tu veux.
Le livret A, c'est combien? Je ne l'ai plus.
C'est 3 en ce moment.
3 en ce moment,
ouais.
Ok.
C'est 3 net.
J'avais 2,80 net d'impôt. En... Ok, ok.
Donc c'est sensiblement la même chose, si tu veux. Les 4%, quand tu retires la flat tax, c'était à 2,8.
D'accord.
30% la flat tax en France.
D'accord, ok.
Dans la réalité des choses, c'est un peu plus que 4% parce que on paye les intérêts pas tous les ans, mais on les paye tous les mois. Ce qui fait que tes intérêts que tu as perçus en janvier, ils génèrent eux-mêmes des intérêts en février. Mmh. Qui eux-mêmes vont générer des intérêts à partir de mars. C'est ça le phénomène des intérêts composés.
Oui.
C'est la boule de neige
qui
grossit.
C'est que tu as 4% sur 1000 euros, mais vu que tu vas avoir 40 euros en fait, à la fin de l'année, tu vas avoir... Ouais.
On va te payer 4% divisé par 12 chaque mois.
Ok.
Mais du coup, à partir de février, tu as toujours, je sais pas, tes 10 euros plus 4% divisé par 12, qui eux-mêmes travaillent à 4% divisé par 12.
Je comprends.
Tu vois? Et ainsi de suite.
Okay.
C'est la boule de neige qui grossit.
C'est ce qui fait que beaucoup te conseillent de te renseigner très tôt dans ta vie sur ces investissements. Parce qu'ils te disent, il y avait eu plein de stats, si tu investis avant tes moins de 25 ans versus tes moins de 40 ans, tu as un gap énorme de gains de 10-15 ans.
Le facteur temps, c'est incroyable si tu veux. Ouais, ouais.
Okay.
C'est à partir du moment où tu passes 30 ans d'investissement, la courbe est comme ça. Elle est exponentielle, vraiment.
On parlait de cette vision d'être tranquille sur l'argent qu'on gagne, l'argent qu'on place, etc. Enfin, ne plus en avoir peur.
Il faut en parler, surtout.
Ouais, et est-ce que même avec des tout petits montants, tu gagnes 1200 euros par mois, est-ce que tu te dis que ça vaut déjà, là tu vois avec le facteur temps, si tu mets ne serait-ce que 10 euros par mois, ça fait 120 euros à l'année.
Ça fera la différence.
Bah, sur 10 ans, ça fait 1200 euros avec les intérêts composés et
ça
ainsi de suite.
Plus que ça, ouais. Parce que en bourse, tu peux aussi espérer doubler ton capital entre 10 et 15 ans, si tu veux.
D'accord.
Donc, et en fait, ce qu'il faut simplement, c'est démarrer la boule de neige.
Ok.
Et tu peux le faire avec 10 euros par mois. Hein. Ça va très bien, c'est un paquet de cigarettes, tu vois.
Et on n'a pas parlé des plateformes, donc on parle évidemment de Trade Republic, ça paraît logique, mais au-delà de Trade Republic, est-ce que, parce que moi par exemple, je ne sais pas, il y a d'autres plateformes uniquement digitales comme Trade Republic qui le permettent, mais avec ta banque, la première fois que j'avais ouvert un compte titre, donc tu peux demander à ta banque d'ouvrir un compte titre, mais vu les frais associés et tout le reste, ça vaut pas le coup sur des petits montants en fait.
Alors, tu vois, on vient de parler des intérêts composés, la boule de neige. Et ben en fait, ça fonctionne exactement de la même manière avec les frais. C'est les frais composés. Donc les frais, par exemple, que tu payes maintenant, si on te prend, je ne sais pas, 1% de frais sur ton investissement maintenant, ben au final, ça peut être 100% du coup dans 15 ans.
Ah, putain.
Parce que c'est 1% qu'on t'a pris au démarrage, ils n'ont pas travaillé pendant 15 ans. Parce qu'on te les a pris au démarrage. Et donc, la boule de neige des frais, elle fonctionne aussi. Et celle-là, elle alimente la banque. Elle ne t'alimente pas ton compte à toi. Donc, les frais, c'est méga important.
Okay.
Vraiment, méga important.
Okay.
C'est aussi une des règles vraiment basiques, c'est de comparer les frais, si tu veux.
50 euros par mois. Merci beaucoup, Bastien. J'aime bien les 50 euros par mois sur 15 ans. C'est 10 500 euros investis. Un rendement de 8% par an, tu peux être à vers 17 000 euros.
Ouais.
C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est... Et 50 euros par mois...
Et
pour beaucoup, c'est possible.
Refais ton calcul et au lieu de 15 ans, tu mets 20 et après tu refais avec 25 et tu vas voir l'écart entre les 5 dernières années et les 5 d'avant, il est incroyable.
Quels sont les frais sur Trade Republic? Il y a une question là de El Pepino.
Bon, nous, c'est... Enfin, la grille tarifaire, elle est assez simple. Elle fait une ligne, c'est 1 euro. Donc en fait, peu importe le montant de l'ordre que tu passes, c'est 1 euro.
1 euro par ordre ?
1 euro par ordre. Donc si tu passes un ordre de 50 000 euros, ça sera 1 euro. Si tu passes un ordre de 200 euros, ça sera 1 euro.
Mais si tu
tu fais du DCA, donc si tu mets les plans d'investissement programmés, dans ce cas-là, on ne facture pas les ordres. Parce qu'en fait...
Tu as passé un ordre pour faire du DCA, donc tu payes 1 euro une fois ?
Non. En fait, par exemple, imaginons que tu dis, moi, j'investis dans l'action LVMH 50 euros par mois en DCA. Et bien, en fait, tous les mois, on va investir...
On va parler d'Hermès, comme ça, on sera un peu concurrentiel. À un moment, on va croire que...
Ouais, on va parler d'Hermès. Du coup, tu investis 50 euros par mois sur Hermès.
Ça sera plus... En plus, ça sera plus stable
que LVMH. Je ne la suis même pas, pour dire.
Allez, elle est belle. C'est une belle action, Hermès, quand même. Ceci n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller financier. Tout risque comporte, tout investissement comporte des risques.
Les performances vous pouvez passées perdre, ne pas des performances
vous pouvez perdre 100% de la somme investie. Oui. On peut continuer
il y a un
longtemps.
De perte en capital, exactement. C'est vrai, c'est très
vrai,
important.
C'est vrai.
Non, mais tu vois l'idée, tu achètes 50 euros d'un actif Hermès, par exemple, par mois. Ce qui va se passer, c'est que nous, on va exécuter les ordres le 3 du mois, par exemple.
D'accord.
Le 3 du mois, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les gens qui ont dit qu'ils mettaient de l'argent sur Hermès une fois par mois, et on va envoyer un seul ordre à la bourse. Donc nous, ça nous coûte un seul ordre.
Ok.
Au lieu de, s'il y a 10 000 personnes, ça nous coûtera un seul ordre. On ne va pas facturer 10 000 fois 1 euro aux gens, si tu veux, alors que nous, ça nous a coûté qu'une fois, si tu veux. Donc c'est pour ça qu'on les met gratuitement, parce qu'en fait, ça nous coûte quasi rien.
Ok.
Voilà. Et... C'est la beauté de la...
Ouais, mais à t'entendre...
L'économie d'échelle.
Oui, mais à t'entendre, du coup, j'ai l'impression que Trade Republic gagne difficilement sa vie.
Non.
C'est-à-dire, comment, c'est quoi le business model, par exemple
C'est sur les 1 euro.
Ok, ça représente quand même assez d'ordre.
Sur les 1 euro, on est rentable.
Ok, incroyable.
Mais oui, parce qu'en fait, c'est très très simple. Société de technologie. On est une société technologique avec une licence bancaire. On n'est pas une banque technologique. On est l'inverse.
Oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes considéré comme Crédit Agricole, comme BNP, vous êtes une banque.
On a une licence bancaire, mais on n'est pas une banque qui fait de la technologie. Avant tout, on était une société technologique. Donc on a, désolé pour, on a streamliné, désolé pour l'anglicisme, mais on a disrupté, ça se dit en français.
Ouais, ouais, disrupté.
On a disrupté toute la chaîne de valeur, en fait. Donc le marché, toutes les connexions qu'il y a entre ça, on a disrupté les concepts, on a automatisé l'ensemble des processus. Ce qui nous permet, en fait, d'avoir une base de coûts qui est X fois inférieure à celle de nos concurrents ou des banques traditionnelles. Et donc, avec ce système-là, la maîtrise des coûts, bah, tu sais, c'est toujours pareil. Quand tu veux être rentable dans une entreprise, c'est soit tu augmentes ton chiffre d'affaires, soit tu réduis tes coûts. La vérité, c'est que c'est un peu entre les deux.
C'est la même chose en perso. Hein, si tu veux t'enrichir, bah, dépense moins. Tu verras, ça marche mieux que d'essayer de dépenser plus d'énergie pour gagner plus.
C'est exactement
la même chose.
Tu sais, ce n'est pas des concepts très compliqués. Ce qui se passe, c'est que la majorité des entreprises, elles pensent juste à augmenter leurs revenus. Nous, on a fait tout l'inverse. On a appris à maîtriser nos coûts. Ce qui fait que maintenant, même avec la croissance qu'on a, nos coûts n'augmentent pas, si tu veux. Donc, on a un point de rentabilité, même avec juste 1 euro de facturation.
Ok. Donc, à ce moment-là, on commence à considérer l'argent plus comme un flux que comme un stock. C'est quelque chose que j'ai découvert surtout aux États-Unis, cette mentalité. J'ai l'impression qu'ici, quand on gagne de l'argent, on aime bien y avoir accès ou le regarder souvent, etc. Et, ouais. et souvent, on confond l'argent qui est fait pour nous faire vivre avec une partie de cet argent où il faut se dire simplement que ça peut être un flux, donc il repart, il reviendra un jour, etc.
Après, même s'il part, si tu veux, sur un compte épargne, ça reste le tien, si tu veux. Pour moi, le sujet, il est vraiment plus sur combattre les problèmes d'aujourd'hui. On parlait de l'inflation tout à l'heure. Tu vois, vraiment, ce concept-là n'est pas compliqué, mais une inflation à 4 et tes placements te rapportent 2, ok, ton épargne, elle va monter de manière numérique, donc tu auras un tout petit peu plus d'argent, mais en fait, tu te seras appauvri. Parce qu'avec cet argent-là, tu peux t'acheter moins de trucs que l'année dernière.
Mais je le rappelle, enfin, je sais que beaucoup, beaucoup connaissent déjà le principe de l'inflation, mais c'est quand même super intéressant. Maintenant, en plus, qu'on est disponible encore une fois en podcast, donc là, ce que vous écoutez, peut-être que vous nous écoutez et vous ne nous regardez pas, vous avez le lien dans la description. Abonnez-vous encore une fois sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. L'inflation, c'est simple. Aujourd'hui, avec 1 euro, je donne un exemple. Avec 1 euro, tu achètes une banane. Et bien, dans 10 ans, avec 1 euro, tu ne pourras plus acheter une banane.
Non.
Tu pourras acheter la moitié d'une banane.
Exactement.
Voilà, ben, c'est ça l'inflation. En fait, c'est juste, il faut comprendre ça et c'est ce qui se passe depuis. Pour ça que vous avez peut-être entendu les grands-parents, les arrière-grands-parents dire « Ah, à l'époque, en francs, maintenant, on a fait x7. » C'est pas x7, c'est l'inflation. C'est parce que les coûts ont augmenté, parce que la demande a augmenté, parce qu'il y a eu la mondialisation, parce qu'il y a eu plein de choses qui ont fait que ça a bougé. Quoi.
Eux, ils ont emprunté l'argent à 7 ou 8% quand ils achetaient une maison, mais en même temps, ils avaient des taux d'épargne, des assurances-vie qui faisaient des 11%, si tu veux, sans risque. Donc, c'est différents contextes, différentes époques, si tu veux.
On comprend le mindset qu'il faut avoir, l'état d'esprit. On est OK avec ça. On comprend où est-ce qu'on peut commencer à investir.
Ce qu'il faut comprendre, c'est les étapes, si tu veux. C'est exactement comme quand tu apprends un nouveau truc. Tu veux te mettre à jouer aux échecs. OK ? Tu n'as jamais joué, tu as regardé la série Netflix là, sur la championne d'échecs et tu dis, oh, tiens, je vais démarrer. Qu'est-ce que tu fais en premier ? Tu lis les règles. Donc ça, c'est je me forme sur les bases, sur... Quel pion fait quoi ?
Mais il y a des débutants qui veulent pas. Là, il y a des débutants qui nous écoutent et qui se disent « Non, moi, les gars, je veux juste savoir où est-ce que j'investis pour gagner de l'argent. »
Il faut un minimum se renseigner, en fait. Ça marche pas comme ça, sinon. C'est trop facile. Ça serait vraiment trop facile, si tu veux. T'as rien sans un minimum d'effort. Par contre, si t'as pas envie de trop faire d'efforts et si t'as pas de temps à y consacrer, plan d'épargne automatisé, donc DCA en ETF qui est ultra diversifié, ça, c'est la clé. Ça, c'est vraiment la clé du niveau zéro.
Ok. J'aime beaucoup citer, je cite Asher, que j'aime beaucoup, qui est un pote qui m'avait déjà dit dans une vidéo, l'argent rapide existe, l'argent facile, lui, n'existe pas. Et je trouvais ça très vrai. Parce qu'une fois que tu as beaucoup, beaucoup de connaissances, tu peux faire de l'argent rapidement. Mais pour faire de l'argent rapidement, là, en une heure, pour faire x3, c'est parce que tu as appris depuis 15 ans comment faire moins x 3 ? Comment diviser par 3 ton...
Et du coup, ça me fait penser à un truc. Si jamais vous recevez un petit message sur Instagram ou un email d'un gars qui vous dit qu'il vous fait faire 15% en 3 mois et qui vous invite à cliquer sur un lien pour démarrer l'aventure avec lui, ça peut possiblement une petite arnaque.
Dylan, le podcast, tu peux le trouver sur toutes les plateformes. Apple Podcast, Spotify, tu tapes juste Romain Lanéry. Voilà, tu tapes Romain Lanéry et vous pouvez suivre le podcast. Merci d'avance. Et là, vous êtes 270 sur YouTube. Vous êtes plus d'une centaine, 150 là sur Twitch. Foncez, mettre des étoiles, les 5 étoiles là sur Apple Podcast. Ça nous aide de fou. Et on sort un podcast tous les samedis matin à 9h. On sort un podcast. Voilà, avec tous les formats qui seront disponibles évidemment en podcast. Donc ce format-là là, qu'on est en train de faire ce mercredi, vous l'avez dès samedi matin 9h sur toutes les plateformes. Forcément, d'autres services sur les banques classiques ne sont pas là. Perso, j'utilise les deux types de banques pour profiter des avantages de chacun. C'est important. Oui, et c'est vrai, et je le dis aussi, moi, je pense que quand on est débutant, c'est super de se faire accompagner par des applications comme Trade Republic. Mm-hmm. Quand on commence à être confirmé, j'en parlais avec Mathias la dernière fois et il m'a cloué le bec en deux secondes, Mathias Bacchino, qui maintenant gère l'Europe chez Trade Republic, je lui dis, oui, mais moi, c'est intéressant d'avoir un compte-titre en banque parce que du coup, je peux le nantir. Pour faire un effet de levier, je peux dire à ma banque...
Je vais faire un crédit lombard.
Voilà, j'ai 100 000 euros en actions en bourse. Je vais dire à ma banque, bon, ben voilà, au vu des actions, au vu de la fluctuation des actions, prête-moi 80 000 euros.
Exactement.
Et ça me permet d'avoir un effet de levier. Donc, c'est aussi intéressant et c'est pour ça que personnellement, je ne crache ni sur l'un ni sur l'autre.
Exactement.
Moi, je suis pour avoir les deux. J'aime l'agilité que me propose Trade Republic.
Il faut tout comparer.
Exactement. Et j'aime aussi le fait d'avoir un partenaire financier qui, là, peut me permettre de faire d'autres projets, mais... Plus tard.
Tu vois, ça, c'est déjà le crédit lombard et le fait de nantir un compte-titre, c'est déjà quelque chose qui relève du patrimoine, si tu veux. C'est déjà quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Tu vois.
Bien sûr.
Vraiment, ce qu'on essaye de faire, nous, avec cette application et cette banque, c'est de donner l'accès vraiment à tout le monde, si tu veux. Moi, j'ai des gens qui font des plans d'épargne à 4 euros par semaine. Ça peut te paraître ridicule, hein, mais il y a des gens qui mettent 4 euros sur un ETF Monde par semaine.
Mais moi, je trouve.
Et qui te disent, mais en fait, je peux faire que ça en ce moment.
Ouais, mais
j'ai. C'est très bien si tu veux.
Et moi, je vais te dire, je m'en fous du montant. Ce que je trouve génial, c'est qu'ils le fassent. Ne serait-ce que là, enfin, vraiment, vous vous rendez. Enfin, vraiment, on ne se rend pas compte. On est mercredi, il est 18h48. Vous êtes sur un live en train d'entendre un petit connard péteux avec un sachant en train de vous expliquer le concept d'investissement et tout. Ne serait-ce que ça, moi, j'ai juste envie de vous applaudir. J'ai envie de dire, putain, mais déjà, vous croyez au fait que vous pouvez vous prendre en main et vous intéresser à des sujets auxquels on n'a pas été formé. J'ai jamais eu un seul cours, excuse-moi, le seul cours auquel j'avais assisté, je crois que c'était en seconde, c'était sur l'économie.
Ça démarre là, ça démarre. On a avancé un peu le sujet, et il y a un texte de loi qui va être voté bientôt, c'est marginal, il y aura 2 heures de cours d'éducation financière au collège qui vont être proposés, mais c'est 2 heures dans l'année.
Ah merde.
Donc ça reste assez marginal pour l'instant, ouais. Si tu veux.
Mais vraiment, la démarche de le faire, vraiment, enfin, bon juste chemin. Soyez fiers de vous, de juste vous dire, ça je sais que ça existe, et je me renseigne. En fait, déjà, juste ce truc-là, c'est pour ça que souvent, quand j'ai des jeunes, tu sais, qui m'envoient des messages Insta, qui me disent « Romain, j'ai 100 euros, dans quoi je les investis ?» Tu sais ce que je fais? Je leur envoie 5-6 liens de livres. Ils me détestent.
Ben oui,
et je leur dis « Mais les gars, avec 100 euros, arrêtez de croire au chat Telegram ou au TikTok, les mecs qui vont vous dire « Avec 100 euros, tu fais 1 million. » Ta gueule, c'est faux.
Ça marche pas.
Juste, arrête. Sinon, les gens ne seraient pas là pour te vendre des formations. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de te vendre des formations si réellement, avec 100 euros, ils font 1 million? Ils se cassent aux Bahamas, ils font autre chose, enfin, dans leur vie.
Tu sais, acheter des livres, c'est aussi investir sur soi-même, donc c'est très très
mais cool. C'est vraiment important de... Et parce qu'on me l'a expliqué trop tard. Tu vois, j'ai 28 ans, j'ai l'impression vraiment... J'avais 25-26 ans quand j'ai commencé à regarder la lecture. Les gens le voient sur YouTube, je partage ma life et ma façon d'évoluer. Je continue d'apprendre tous les jours avec vous en direct et avec ces échanges qui sont trop inspirants et intéressants. Mais vraiment, encore une fois, l'argent rapide existe, l'argent facile n'existe pas. Dites-vous que peut-être que pendant 10-15 ans, je prends un exemple, dans mon entourage, il y a une personne qui fait des études en droit bancaire et financier,
oui.
Très poussée, à l'international et tout ça. Et cette personne n'est pas du tout animée par l'argent.
Oui.
Elle est animée par le savoir. Apprendre plein de choses, faire les choses dans les règles de l'art et tout. Et à chaque fois, je n'arrête pas de lui répéter, je lui dis « Mais tu sais, peut-être que tu gagneras correctement ta vie pendant 20 ans, sauf qu'après 20 ans d'expertise, tu vas peut-être faire... une fusion-acquisition, un truc énorme d'une boîte, et tu toucheras peut-être 150 millions d'un coup, du jour au lendemain. » Parce que tu auras... Exactement, mais tu l'auras tellement pas fait pour l'argent, tu l'auras tellement fait parce que tu as aimé... Et c'est ça que je trouve génial, en fait. Et vraiment, si on me l'avait dit plus tôt, eh ben, je serais peut-être un peu moins parti en couille à certains moments. Vous avez vu sur YouTube faire des contenus machin, aller à droite à gauche, je commence à parler de voiture. Et c'était ce truc-là de me dire, tu sais, t'as un peu d'ego, t'as le truc et tout.
Ouais, quand même, si tu veux, parce que tu peux pas oublier non plus de vivre, si tu veux, même si ça devient partie intégrante du fait que tu vis bien, le fait d'avoir le savoir, le transmettre et autres, tu vois. Mais c'est, en fait, ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on appelle la maturité, si tu veux, que tu gagnes avec l'expérience. Et c'est valable pour tous les sujets, si tu veux. Plus tu fais, plus tu testes, du coup plus tu apprends, et plus tu gagnes en maturité, et plus tu es meilleur, et plus tu te connais aussi toi-même.
J'ai compris, j'ai écouté le contenu jusque-là, je suis abonné à la chaîne YouTube, c'est important. Là, je vais recevoir mon salaire pour le mois prochain. Je suis OK de mettre 10 euros, 20 euros pour tester. Je les mets dans quoi, Vincent? Je fais quoi avec ces 20 euros? J'arrive sur Trader Republic, j'ai ouvert mon compte, j'investis dans quoi, concrètement?
Bah, si tu sais pas, ETF Monde. Tu achètes une fraction des 1600 plus grosses entreprises du monde.
Ça, c'est parce que tu crois au fait que le monde va continuer de...
Ça, c'est parce que tu crois au fait que l'économie mondiale, dans sa globalité, va continuer de croître.
Ok.
Ouais.
Très simple à comprendre.
C'est juste ça.
Ok. Je travaille dans l'univers du luxe, je travaille dans l'univers de l'agriculture, je travaille dans l'univers de l'écologie. Et je me dis, bah, c'est con, tous les jours, je bosse pour que ces industries... continue de croître et continue de prospérer, je peux investir moi aussi dans ces entreprises, je peux...
Là, tu es au niveau
supérieur. Ah, ok.
Donc, tu es au niveau 1 et ça s'appelle l'investissement de conviction.
D'accord.
Donc, t'as une conviction que quelque chose va marcher parce que tu travailles dans ce secteur-là, tu vois bien comment le secteur évolue, parce que... je sais pas, t'as acheté tous les iPhones depuis qu'ils sont sortis et tu te dis, bah tiens, si j'avais eu des actions Apple, j'aurais reçu un petit peu de dividendes, ça marche pareil. Si t'as une conviction de je dois faire plus avec mon épargne d'un point de vue responsabilité, écologie, t'as aussi des solutions si tu veux. T'as des ETF qui vont investir uniquement dans des entreprises qui respectent l'accord de Paris,
okay.
Par exemple. Y a des solutions pour tout. Et donc là, quand t'as une conviction comme ça, pour moi, elle doit être en supplément de ta base d'investissement.
Okay.
Pour moi, le ETF Monde ou le ETF S&P 500 ou un indice très large et très diversifié, ça doit être le socle de ton épargne. Et après, tu peux allouer une partie à la conviction. Tu vois.
Donc là, c'est déjà une partie dans la partie que tu avais pu mettre de côté,
oui,
pour investir. Tu te dis que tu vas mettre 30%, 20%,
en fait,
un peu plus risqué.
Si tu investis dans un secteur en particulier, tu augmentes le risque. parce que ton épargne est uniquement dépendante de ce secteur-là. Alors qu'un ETF monde, par exemple, il investit dans tous les secteurs. Il y en a qui sont plus représentés que d'autres, mais ça investit dans plusieurs secteurs. Si tu investis uniquement dans je sais pas, tout ce qui est entreprise qui travaille autour du gaz, bah, potentiellement, si le cours du gaz s'effondre, les boîtes vont aussi perdre. Et si tu as mis trop d'argent sur ce secteur-là, bah, tu vas en souffrir.
Ok. Ok. Bon, on a déjà vu le DCA, la façon de diversifier ou se concentrer sur un seul domaine, ça c'est l'étape plutôt supérieure.
Ouais.
Est-ce que c'est mieux, parce qu'on parle beaucoup d'actions qui rapportent des dividendes, donc est-ce que c'est mieux que je sois récompensé ? Est-ce que c'est grave d'avoir des actions où il n'y a pas de dividendes ?
C'est un gros débat, il n'y a pas de solution si tu veux. Tu peux te dire qu'une entreprise qui verse un dividende, c'est une entreprise du coup qui a déjà atteint son point de rentabilité. Donc c'est une entreprise qui est rentable et qui génère des bénéfices, et c'est pour ça qu'elle en redonne une partie à ses actionnaires.
Okay.
Donc ça peut te rassurer. En même temps, tu peux te dire qu'une entreprise qui ne verse pas de dividendes, c'est parce qu'elle le réinvestit dans son développement, et là, tu es dans une entreprise de croissance. Et donc, tu ne vas pas toucher de dividendes, mais la valeur de l'action que tu as achetée va potentiellement augmenter plus vite. Tu vois ? Donc c'est vraiment deux méthodes. Là, on arrive au niveau 3 déjà. Et quand tu ne sais pas, tu achètes toutes les actions. Tu vois.
Et quand tu as un ETF, tu as des actions qui distribuent des dividendes et d'autres pas.
Exactement.
Donc parfois, tu peux avoir des petits plus sur ton compte et ça veut dire que tu as des dividendes et qui eux-mêmes travaillent à 4%
pour moi, ça
en
doit pas
sur
être
un trade république.
Un critère déterminant, si tu veux, le dividende.
Ah, moi, ça... Enfin... non, mais c'est chiant parce que je ne peux pas donner de... J'aimerais trop... Alors,
Juste un exemple. Tu as des sociétés foncières cotées. Donc, c'est des sociétés qui achètent des immeubles et autres et qui les mettent en location. Et donc, ces entreprises-là sont cotées et elles sont connues pour donner des dividendes très réguliers, si tu veux, voire mensuels, voire trimestriels. Ces entreprises-là, elles ne font pas forcément de croissance. C'est-à-dire que la valeur de l'action que tu as achetée, il augmente jamais.
Ouais, c'est un rendement.
Trop,
quoi,
Alors après, je ne veux pas généraliser parce qu'il y en a qui augmentent. Tu vois, si tu regardes le cours de Uniba et Rodamco sur les trois derniers mois, ça a bien augmenté. Après, elles n'ont plus de dividendes en ce moment. Donc, le sujet, il n'est vraiment pas simple. Il n'y a pas de « oui, c'est bien dividende, non, c'est pas bien ». C'est vraiment plus complexe que ça. Et pour le coup, on est vraiment niveau 2 ou 3. Là.
Ok.
On n'est plus débutant.
Tu saurais, peut-être que tu me réponds non. Hein. Je sais qu'on est en live et tout ça, mais c'est pas grave, j'en profite. Si un jour, j'ai vraiment envie de faire un live où on parle d'actions concrètes, où on dit, moi j'ai investi là-dedans, machin, ça se passe comment ? Et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu peux nous présenter qui aurait le droit de faire du conseil financier en live à un moment ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver, tu vois, qui vont se dire, c'est con, parle-nous. Moi j'aimerais bien, par exemple, partager, tu vois, mon portefeuille bourse et dire dans quoi j'ai investi. Mais j'ai pas envie que ça puisse être pris comme un conseil en investissement, c'est super délicat.
C'est très délicat. Ça me fait penser à une question que tu dois toujours demander à ton banquier quand il essaie de te vendre un produit. Et comment il fait lui pas avec son épargne ? Tu lui demandes s'il a investi dedans.
Alors oui.
La réponse peut être assez drôle.
Moi, je l'ai fait pas trop marrer parce que, en fait, j'ai eu tellement de mauvaises expériences au tout début avec, je considérais, excusez-moi, hein, que c'était des vieux cons parce que je suis pas tombé sur les bons. Aujourd'hui, j'ai un super banquier, je suis très très content, mais parce qu'on se parle comme deux potes et lui-même est fan de finance et tout ça, et en fait on est devenu presque...
Il nous écoute
plus...
ce soir.
Peut-être, on est peut-être devenu plus amis, il s'appelle Manuel, je l'embrasse, et il a eu une règle simple, et il est adorable à chaque fois, parce qu'il sait que quand je suis rentré dans cette banque-là, pour faire ses investissements avec un compte titre et tout ça, il m'avait dit, est-ce que tu veux, c'est quelque chose qu'on propose, est-ce que tu veux avoir... mensuellement une analyse de nos traders, de nos investisseurs et tout ça ou pas. Et je lui ai surtout demandé, je lui ai dit, je ne veux rien.
Ouais.
Surtout, ne me dites rien, ne jugez aucun de mes choix, etc. Sauf si je vous le demande. Et je trouve ça très très smart parce qu'aujourd'hui, quand je demande des ordres hautes de temps en temps, ben, je sais qu'il ne donnera jamais son avis. Et c'est même moi parfois qui ai demandé, et la dernière fois ça m'a dissuadé d'acheter une action parce que je lui ai dit, voilà, je me pose des questions sur cette action. J'aimerais juste avoir votre avis. Et j'ai eu une petite analyse et tout ça, et je trouvais ça génial d'avoir, tu vois, aussi ce retour-là. Mais sans ça, moi, au départ, en tant que débutant, pour répondre concrètement, ce que je faisais, c'est que j'investissais dans des secteurs que je connaissais et que j'aimais. C'était ma seule façon à moi de me dire, j'adore Apple.
Parce que t'as un avantage de connaître le truc, donc tu te sens dans terrain connu un peu, si tu veux.
Mais j'y connaissais rien au début, tu vois. La première action que j'ai achetée...
De connaître un secteur, vraiment, c'est déjà, si tu veux, de connaître un business model.
Mais je pense que tout le monde, vraiment...
Tout le monde connaît au moins un système.
Mais oui, t'adores la danse, t'aimes l'entertainment, donc tu vas peut-être avoir le Cirque du Soleil qui va te dire, j'en sais rien, j'y connais rien.
Non, mais
peut-être, tu vois, tu vas aimer les vêtements, tu vas aimer...
Les voitures...
Il y a toujours un truc où ça va te rapprocher d'un, tu vois. T'adores les US, t'es fasciné par les US, par le voyage, il y a toujours un truc où tu veux...
Club Med, tac.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Non, mais il y a toujours...
Mais je trouve ça important, pourquoi ? Parce que c'est toujours ce que je répète, c'est oui, tout investissement comporte des risques, oui, tu peux tout perdre, mais si au milieu t'as appris, déjà, avec ma façon de faire, j'achète une action que je suis pendant 2-3 ans, la société se casse complètement la gueule.
Tu
mais pendant 2-3 ans...
Si tu sais pourquoi...
Exactement.
Tu ressors pas à zéro.
Exactement. Et c'est psychologiquement, ça fait... Enfin, je serais incapable aujourd'hui d'investir dans un truc que je comprends pas. Et c'est pour ça que même un ETF, pour moi, c'est important de comprendre. De me dire, ok, cet ETF-là, il représente quelle industrie, il représente quelle valeur... Enfin, tu vois, c'est juste... Mais après, peut-être qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement.
Investir dans soi-même, si tu veux.
Ouais, peut-être.
Parce qu'en fait, si tu te poses la question et si tu vois quelqu'un qui te dit « achète cette action, elle va monter », en fait, c'est un mytho. Il n'en sait rien. Personne n'en sait rien, en fait. Personne lit l'avenir. Personne ne sait si une action, elle va monter ou elle va descendre, si tu veux. Et tous ceux qui te disent savoir et être certain que ça va monter ou ça va baisser, c'est des gros mythos.
Ouais. Ah bah oui, oui.
Je le dis surtout pour l'audience. Faites vraiment attention, tu vois. Par contre, si quelqu'un te parle d'une action et te dit, moi, je pense que... elle peut aller à ce niveau-là parce que ça, et dans le cas où elle n'y va pas, je le sortirai à ce niveau-là, ça, c'est une analyse déjà qui a beaucoup plus de valeur, si tu veux.
Ouais,
c'est quelqu'un qui crée un scénario en fonction des possibilités.
Mais moi, j'aime... Ouais, ok, vas-y, je te laisse finir.
Elle te dit, voilà, moi, je te donne un plan. Le plan, il se passe bien ou il se passe mal, mais dans les deux cas, tu sais où tu sors. Dans les deux cas, si tu veux. Donc, tu connais sensiblement le montant de perte que tu peux allouer au maximum sur le titre, si ça ne va pas dans le sens que tu veux. Et ça, c'est beaucoup plus raisonnable que mets all-in, mets la maison sur tel truc. Si tu veux.
Moi, il y a eu un raisonnement que je préfère encore plus à celui-là. C'est la personne qui va me dire, je pense que cette société... oui, mais je pense aussi que cette société va croître parce qu'ils sont en train d'arriver sur ce nouveau marché... parce qu'ils n'ont pas encore acquis ce nombre de clients-là dans
son modèle d'initié aussi. Hein.
Oui, bien sûr. Mais pour moi, ça n'a rien à voir. C'est plutôt, je te donne un exemple, Apple. Typique. Apple sur la finance. L'industrie bancaire.
Ouais.
Il y a tout un truc à faire. C'est-à-dire que tu te dis Apple aujourd'hui, ils sont très valorisés, c'est très gros. La personne qui va me dire, Apple, ça n'ira pas plus haut. Je dis, attends, parce que c'est... Attends, non, mais juste deux secondes.
C'est l'année dernière, l'année d'avant, l'année encore avant, et c'est encore avant.
Dans la tech, ils sont là, ok. Dans la santé, Apple Watch, ils sont là. Dans l'industrie horlogère, c'est la montre la plus vendue du monde. Ils sont là. Il reste la finance et il reste l'automobile, deux gros marchés par exemple.
Ils ont annulé, je crois, l'automobile.
Ils l'ont annulé pour le moment, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a un partenariat ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut... En tout cas, c'est encore une brèche. Moi, je m'imagine juste, quand je vois la valeur de cette boîte,
une boîte qui gagne de l'argent, tu vois.
Oui, mais il y a encore une brèche qu'ils ont pas empruntée, tu vois. Et pareil, pour la disruption qu'ils peuvent faire et qu'ils ont déjà fait avec... c'était Goldman Sachs sur la banque aux US, enfin bref.
Je crois que c'était Goldman, et c'est toujours en place d'ailleurs.
Ouais,
il file 4% sur l'argent que tu as sur ton Apple Wallet.
Exactement. Ouais, ouais. Donc, c'est ce raisonnement-là que j'aime faire dans des entreprises. J'ai une question. Pourquoi Trade Republic n'est pas coté ?
Parce qu'on n'en est pas encore là.
Ok.
On a levé 1,2 milliard il y a un an et demi. Donc en fait, on a levé 1,2 milliard et on est rentable. Donc ça veut dire qu'on ne consomme plus l'argent qu'on a levé. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison d'aller s'introduire en bourse pour avoir encore plus d'argent, parce qu'on n'a pas de problème déjà avec l'argent qu'on a.
Ok.
Donc voilà.
C'est ouf parce qu'on pourrait se dire, on en veut toujours plus.
On en veut toujours plus, mais non. Enfin, ce que je peux te dire, c'est que c'est pas dans les plans, quoi.
Ok. J'investis. Ouais. Trade Republic, c'est une application mobile.
Oui.
Je peux du coup l'ouvrir et la fermer autant de fois que TikTok.
Oui.
Comment je fais pour résister ?
Le mieux, c'est de pas regarder.
Ah.
En fait, si tu fais ton DCA, de dire j'ai investi, et tu peux même le faire par semaine si tu veux, si tu as envie d'être un petit peu plus joueur, tu dis je mets 10 euros par semaine au lieu de mettre 40 euros par mois. Une fois que tu l'as mis en place, il s'exécute tout seul. Et si tu fais ça vraiment pour investir pour ta retraite ou pour au moins 5 ou 6 ans, en fait, ouvre plus l'appli après. Ça va te créer que des problèmes. C'est vraiment le fait de voir l'action monter, ça va te créer des questions de te dire putain, est-ce qu'il faut que je revende maintenant ou pas. Si tu la vois baisser, tu vas dire même chose, tu vois, est-ce que je dois la revendre machin. Ça va te créer que des problèmes. Si tu veux. Alors que si tu laisses le truc tourner, toutes les semaines, tu vas acheter 10 euros. Donc les semaines où ça a monté, bah, tu vas en acheter moins du coup avec tes 10 euros, puisque le prix d'une action il sera plus cher. Les semaines où ça a baissé, tu vas en acheter plus et tu vas continuer d'accumuler. Tu vois, okay. Tranquillement. Okay. Donc vraiment le moins tu regardes, le mieux c'est pour toi. Moi je suis pas.
Mais du coup, à quel moment t'en profites ?
À quel moment t'en profites de quoi ?
Bah de tes plus-values.
Ah bah ça dépend pour quel objectif d'épargne.
Donc c'est important d'avoir un objectif d'épargne avant de.
Le truc indispensable, on en a parlé au début du live, c'est d'épargner pour ta retraite. Parce que sinon, tu vas perdre 50% de pouvoir d'achat le jour où tu seras en retraite si tu n'as pas épargné toi-même. Ça, c'est la base de la base. Donc, si tu veux compenser ça, il faut que tu épargnes 5% de ton salaire à partir du moment où tu as 30 ans jusqu'à ta retraite, à 5% de rendement. Et 5% de rendement, la bourse, elle le fait largement sur 30 ans.
Ok.
Tu vois ? Donc, ça, c'est ce que tout le monde devrait faire en France, épargner pour sa retraite soi-même. Sur cet objectif-là, tu ne regardes pas, tu mets les sous tous les mois, sur le même actif, tu ne changes jamais. Et on se reparle dans 30 ans. Okay. Ça, il ne faut pas overlap. Si après, j'ai vu une question tout à l'heure, il y a quelqu'un qui se demande s'il peut quand même épargner alors qu'il veut l'argent pour un projet immobilier dans 3-4 ans. Oui, mais tu ne fais pas de la même manière. Tu n'achèteras pas des actions, par exemple. Si tu as un projet de l'avoir pour 3 ou 4 ans, bah, tu as deux solutions. Soit tu laisses l'argent sur le compte Trade Republic, tu as 4% jusqu'à ce que Christine Lagarde baisse les taux de la BCE, et dans ce cas-là, ça va baisser. Ou alors, tu as des obligations, par exemple. C'est ce que c'est une obligation ou pas ?
Oui, mais je veux bien que tu leur expliques pour le live.
Quand tu achètes une action, tu achètes une part de l'entreprise. Et tu reçois un dividende si jamais l'entreprise fait un bénéfice, ainsi de suite. Si tu achètes une obligation, tu achètes une partie de la dette de l'entreprise. Donc, pour faire simple, l'entreprise, elle dit, moi, j'ai besoin d'argent, mais je ne veux pas donner mes actions. Par contre, si vous me donnez 100, moi, je prends vos 100, tous les mois ou tous les ans, je vous donne 5, et dans 3 ans, je vous rends vos 100 plus 5 encore.
C'est un capital garanti ?
C'est pas un capital garanti, parce que si l'entreprise fait faillite, évidemment, elle ne va pas payer cette dette-là qu'elle te doit. Par contre, tu dois bien sélectionner les entreprises. Si tu es sur un LVMH ou autre, il n'y a généralement pas de problème. Par contre, l'avantage que ça a, c'est que tu connais les conditions à l'avance. Tu sais combien de temps tu prêtes l'argent, et tu sais quel est le taux d'intérêt qu'elle va te verser. Et quand tu vas toucher les trucs. Et tu as une multitude d'obligations. Tu en as qui ont une durée sur 6 mois. Donc là, tu sais que tu vas toucher, je sais pas, 3% sur les 6 prochains mois. Et au bout des 6 mois, ils te rendent l'argent que tu leur as donné. Tu en as qui durent 40 ans. Tu vois, là, tu as des emprunts de l'État roumain, par exemple, que tu peux acheter. Et là, ça dure 40 ans. Mais pendant 40 ans, tu touches, je sais plus, c'est 7 ou 8 %. Tu vois.
D'accord. OK.
Donc au final, tu as récupéré ce que tu as donné. Au bout de la 7-8e année, et 40 ans plus tard, t'es vraiment. T'es bien, mais il faut essayer à rester 40 ans, tu vois.
Ça se passe et comment ? Ouais, vas-y.
Donc, pour ce monsieur-là qui a un projet à 3 ans, ça peut faire sens d'acheter une obligation où l'entreprise rembourse la dette au bout de. Dans 2 ans et demi, si tu veux.
Ah, il peut faire une recherche spécifique là-dessus.
Ouais.
Ok.
Et donc, il aura prêté, je sais pas, 1000 euros. Et ben pendant un an, la première année, il va recevoir, je sais pas, 50, 100, 200 euros, peu importe. Je connais pas le taux. Et à la fin, il récupère ses 1000 euros 2 ans et demi après, plus les intérêts.
Ça se passe comment pour la déclaration fiscale sur Trade Republic ? Alors, c'est une question qui revenait beaucoup.
Ouais. Trade Republic, le compte, c'est un compte étranger. Parce que c'est Trade Republic qui est situé en Allemagne pour l'instant. C'est quelque chose qui va tendre à changer. Donc là, quand vous avez, je sais pas, votre compte chez Boursorama, Crédit Agricole, BNP, comme ça on a cité 3. Quand vous ouvrez votre déclaration d'impôt, c'est pré-rempli automatiquement avec les montants et les bonnes cases en fait. Ça, c'est parce que ces entreprises-là, elles communiquent avec l'administration fiscale et tous les ans, elles envoient les informations et c'est pour ça que votre relevé est pré-rempli. Nous, on ne communique pas avec l'administration fiscale française pour l'instant, Donc on vous met à disposition un imprimé fiscal unique. Donc c'est c'est un reporting, c'est un rapport en fait, qui reprend exactement les mêmes cases que sur le site des impôts en France. Et donc vous avez juste à prendre ce document-là, aller sur le site des impôts au moment où vous faites votre déclaration, et reporter les montants dans les cases. Ça prend 10 minutes. Okay. Et il y a tout un petit formulaire additionnel pour déclarer qu'il y a un compte à l'étranger. C'est le formulaire 3916.
Okay.
Il y a 4 lignes. Tu dois dire où est ton compte, c'est quoi le numéro du compte, ce genre de choses.
Là, la grosse nouveauté, c'est la carte Trade Republic. On en a beaucoup parlé dans le précédent live avec Vincent, d'ailleurs. Je vous invite à aller regarder. Pourquoi une carte miroir ? C'était le sujet un peu original, Trade Republic, qui propose comme ça la carte miroir. Il y a eu beaucoup de demandes et de gens qui râlent parce qu'ils veulent la recevoir, cette carte. Et on veut comprendre, Vincent.
Tu sais que le fait d'avoir mis cette liste d'attente, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver.
Ah bon ?
Mais t'imagines même pas
comment ça aurait été. La supply chain aurait été impossible à gérer vu le nombre.
Elle l'est déjà, si tu veux.
Mais le nombre de journalistes attentes, il est réel. Il y a vraiment autant de gens.
On l'a lancé le 9 janvier.
Ouais.
Une semaine et demie après, deux semaines, 1 million de personnes sur la liste d'attente.
Ça, c'est des vrais. Vous gonflez rien.
On ne gonfle rien. C'est dans 17 pays en Europe.
D'accord. Rien. Ok.
1 million au bout de 15 jours. Maintenant, donc. Un mois et demi plus tard, il y a toujours plus de gens chaque jour qui se mettent dans la liste que notre capacité de production et de livraison. C'est-à-dire que la liste continue d'augmenter alors qu'on a déjà multiplié par 10 notre production par rapport au démarrage.
Tu peux nous dire combien il y a de cartes qui peuvent partir par jour ou pas ?
Non, ça je peux pas te le dire.
Okay.
Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas constant.
D'accord, ok.
C'est-à-dire que, par exemple, si lundi, on a réussi à en faire partir 20 000, mardi, potentiellement, c'était 50 000, et ça peut rebasculer mercredi à 10 000. Parce que, comme tu l'as dit, il y a une supply chain.
Mais on parle quand même en dizaines de milliers.
Oui, par jour, oui.
Ok, mais j'ai peur. Quand je voyais 1 million, je me disais, vous en envoyez 200 par jour, on n'est pas dans la merde. Quoi.
On augmente la capacité de production, okay. On augmente les stocks, parce qu'en fait, les cartes, donc elles sont fabriquées par Visa aux États-Unis, après elles reviennent en Europe, les puces sont ajoutées avec les données personnelles des gens dans une usine en Europe, et après, ça repart en livraison partout en Europe, si tu veux. Donc, la supply chain, elle est quand même très, très longue et très, très compliquée. Donc, oui, c'est pour le coup, d'un point de vue entreprise, c'est heureusement qu'on a fait ça, si tu veux, parce que sinon, on aurait 1 million de gens mécontents qui auraient vraiment commandé la carte, si tu veux, et vraiment payé, et qui ne la recevraient pas.
Okay.
Alors que là, on est en capacité de maîtriser le flux,
okay.
Et on fait notre maximum pour en délivrer le plus possible. Au mieux.
Ok. Et là, pourquoi, enfin moi c'est une question que je me pose, mais pourquoi est-ce que vous récompensez pas, entre guillemets, tous les premiers clients là, qui sont sur la liste, pourquoi est-ce que vous stoppez pas cette liste d'attente le temps de tout livrer ? Pour faire comme un peu un deuxième, tu sais, comme une deuxième...
Ah, tu veux mettre une sorte de buffer ?
Ouais. Un peu comme ce qui se fait, tu vois, sur la mode, dans le luxe ou autre, tu te dis, bah t'as ces clients-là, d'ailleurs, d'abord,
on veut pas essayer de jouer sur ce côté série limitée ou autre, parce que c'est pas trop la vision, on a préféré plutôt l'angle parraine tes potes, si tu veux monter dans la liste, parce que ça devient aussi un outil d'acquisition de clients, si tu veux, pour nous. Donc oui, les gens qui parrainent avancent plus vite dans la liste, ils gagnent à chaque fois, je crois que c'est 100 ou 200 000 places quand même, chaque parrainage. Il y a toujours plus de gens qui arrivent dans la liste, on travaille en parallèle pour augmenter la production. Je vois pas ce que je peux te dire de plus pour le coup, parce que c'est vraiment...
Pour ceux qui découvrent la carte là et qui l'ont avec plaisir, mais pour comprendre, juste en quelques mots, on a déjà fait encore une fois le live là-dessus, mais pour comprendre pourquoi est-ce que les gens se battent pour cette carte.
C'est par là.
Ouais, c'est une carte miroir.
J'espère que tu n'avais pas d'infos confis sur l'écran.
Non, aucune.
Alors, comme tous les produits que Trade Republic lance, tu vois, je t'ai parlé des 4% sur les intérêts tout à l'heure, on a parlé un petit peu des obligations. Tous les produits qu'on lance, comme la carte, le seul objectif, ou en tout cas l'objectif d'un point de vue client, c'est vous aider à augmenter votre épargne.
Ok.
Les 4%, c'est aucune banque le donne. Parce que les banques gardent ces 4% là pour eux, nous on les redonne aux clients. Les obligations, avant c'était un paquet entre 5 000 € et 100 000 € minimum d'investissement, on a rendu ça accessible à 10 € pour que les gens puissent bénéficier de ce produit-là qui est intéressant quand les taux sont élevés. Et bien la carte, c'est la même chose. La carte, elle vous permet de récupérer 1% de toutes vos dépenses en épargne. Mais c'est-à-dire qu'on ne vous prend pas 1% de ce que vous avez dépensé. Nous, on top-up, donc on rajoute 1% de ce que vous avez dépensé et on vous le met dans votre plan d'épargne, dans votre DCA.
D'accord.
Donc, c'est le, encore une fois, le but, c'est d'aider les gens à faire croître leur épargne.
Ok, super clair.
C'est l'idée. Et après, voilà, il y a plusieurs styles. La carte miroir, l'idée, c'était de créer un objet plutôt sympa, plutôt instagrammable, tu vois, de créer cette petite hype.
Je trouve que c'est une bonne idée, j'aime bien.
Moi, je l'adore.
Beaucoup parlent du PEA depuis tout à l'heure.
Ouais.
Ça arrive quand ?
T'as des infos ? Je donne pas de date, parce que je veux pas faire de déçu. Ce que je peux vous dire, c'est que la localisation des produits, c'est le sujet de l'année pour Trade Republic. Donc, on a créé notre base de produits et dernièrement avec la carte, qui est le standard européen, si tu veux. Mm-hmm. Et maintenant, on a triplé les capacités de développement des équipes sur les projets locaux. Donc oui, il y a une grosse équipe qui bosse sur le PEA actuellement.
Qu'est-ce qui fait que c'est... Enfin, j'y connais... Enfin, pour le coup, là-dessus, j'ai jamais investi dans un PEA. Je vois pas... c'est quoi la complexité ? C'est quoi le...
Le PEA, c'est comme un compte-titres, mais tu as des avantages en plus et des inconvénients en plus.
D'accord.
L'avantage en plus, c'est que tu as une fiscalité réduite.
D'accord.
Par rapport au compte-titres. Le compte-titres, c'est une flat tax de 30%.
Sur tous les bénéfices ?
Sur tous les gains, mais nets, si tu veux. Quand tu as une perte, elle vient réduire le montant de tes gains.
Oui, très clair. Ok.
Le PEA, tu retires la partie imposition et tu as juste les prélèvements sociaux de 17,8.
D'accord.
De 30, du coup. 17,2, d'ailleurs. La contrainte ou les contraintes par rapport à ça, c'est... Un, tu peux investir que dans des actions ou des ETF de l'Union européenne. Mmh. Tu peux pas mettre d'obligations dedans, tu peux pas acheter une action Apple dedans. Donc ça te restreint l'univers d'investissement. Tu peux tricher un peu avec les ETF, puisqu'il y a des ETF synthétiques, mais après là on rentre dans le niveau un peu plus élevé, mais tu peux aller t'indexer sur le marché américain dans un PEA avec des ETF. On pourra faire un petit truc dédié là-dessus si tu veux.
Okay.
Et la deuxième contrainte, c'est que tu peux pas verser plus de 150 000 euros, qui est pas vraiment une contrainte si tu veux.
D'accord. En tant que débutant, en tout cas.
Ouais.
Ok.
Donc voilà, c'est un produit franco-français qui est génial hein, pour le coup, sur lequel on travaille assez ardemment. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer le DCA sans frais en ETF dans le PEA, donc avec une fiscalité avantageuse.
Okay.
Et ça, c'est le produit ultime pour ta retraite.
Juste avant de prendre toutes les questions que mes abonnés m'ont posées là sur Instagram, on va essayer de répondre un peu du tac au tac et tout ça juste pour répondre aux personnes qui interagissent avec moi là sur Instagram.
Ta question, faux.
Ouais, exactement, ça va être un peu ça. Ça date. Tu m'as sorti une ref là.
J'ai plus 20 ans non plus.
On est vieux là. Là, mais tu viens de me faire. Là,
désolé.
C'était deux boomers en live. Merci Vincent.
Ouais. Boomer alerte.
Comment est-ce qu'on s'éduque sur la bourse ? Toi, t'as étudié dans ce milieu-là depuis un moment, mais...
Oui, moi, c'est par mon travail, voilà. Si tu veux.
Mais je veux dire, là, t'es juste débutant, mais tu sens que c'est un truc qui t'ouvre l'appétit, où tu te dis, j'ai quand même envie d'avoir plus d'infos, j'ai envie d'apprendre. Il y a des livres que t'as en tête, il y a des choses
Il y a des livres, Père riche, père pauvre, il y a pas mal de livres. Le plus accessible, en fait, c'est comme pour tous les sujets de la vie. T'as YouTube, t'as Internet... Tu peux avoir des vidéos de micro-learning qui durent 5 minutes, qui te donnent un concept. Tu peux avoir des vidéos longues qui vont vraiment profondément sur les sujets. Mais toute la connaissance, elle est accessible gratuitement sur Internet. Vraiment.
Est-ce que tu penses qu'il faut pratiquer pour...
Il faut toujours pratiquer. Il faut essayer. Même si vous voyez des trucs un peu... tu vois, les effets de levier, c'est pas du tout niveau débutant. Mais rien ne t'empêche d'aller mettre 5 euros sur le produit... pour voir comment le produit se comporte et comment ça marche en fonction du marché, de perdre tes 5 euros, mais d'avoir appris, tu vois. Tu auras payé 5 euros pour apprendre, ce qui est à peu près honnête. Ou tu auras payé 5 euros pour savoir que ce n'est pas pour toi et tu ne le referas plus. Si tu veux. Donc, c'est en même temps, tu te formes. Les contenus, ils sont accessibles partout. Il y a énormément de créateurs de contenus qui font de l'éducation financière. Tu peux avoir des formats newsletter, tu as des formats podcast aussi. C'est super important d'écouter. Et après, il faut pratiquer, mais il faut pratiquer avec des petits montants au démarrage, s'il vous plaît. Posez pas la maison sur le compte et investir sur un truc. Vraiment des petits montants.
Moi, j'ai une liste de livres. Je vous la laisse. Enfin, vous pouvez aller sur Google, Romain Lanéry, sélection Amazon. Vous l'avez. Et c'est dispo. Moi, j'ai appris au tout départ dans les livres, mais j'ai aussi beaucoup appris en pratiquant. C'est vrai.
Moi, je suis pas trop bouquin au final sur l'éducation financière parce que je les trouve potentiellement mal écrits et un peu indigestes, justement.
Ouais.
Alors que je trouve que le format vidéo se prête beaucoup plus à ça.
Moi, je retiens moins en vidéo.
C'est pas faux, ça non plus.
Je retiens plus quand je lis. C'est Manuel Diaz qui me disait plus l'information est difficile d'accès, plus elle a de valeur.
Oui, c'est vrai.
Et je trouve que c'est assez vrai, tu vois.
Moi, j'ai associé les livres à. Je lis beaucoup de romans, de trucs comme ça, et du coup, j'ai une association très plaisir sur le bouquin. Mm. Et un peu moins éducation. Donc j'ai...
Je lis un peu le chat. Ouais. Des roulades TV, pourquoi il y a des pubs, bordel, on est 300, tu gagnes des thunes sur ce live. Alors oui, en fait, moi, c'est un métier. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément là que par plaisir. C'est un métier. Vincent aussi, c'est son métier. Et il y a des pubs sur Internet parce que vous ne payez rien pour avoir accès à ce live. Et en fait, derrière chaque contenu, il y a des gens qui travaillent. Nous, aujourd'hui, on est 6 dans les équipes. Donc, c'est important de le dire. Et si tu veux pas de pub, il y a une option qui s'appelle YouTube Premium qui coûte 15 balles, un truc comme ça par mois, un peu plus peut-être. Et si tu as envie d'investir dans cet abonnement-là, bah, tu t'enlèveras les pubs. Voilà. Moi, aucun problème, je suis très, très libre. Mais je pense que c'est important d'éduquer les gens au fait que quand c'est gratos, bah, à un moment, ça fait vivre des personnes. Donc, il y a des collaborations. Aujourd'hui, on est en collaboration commerciale avec Trade Republic et ça n'empêche pas la chaîne YouTube de continuer de proposer de la monétisation sur de la publicité classique parce que derrière ça, il y a toute une équipe qui vit. Et voilà, à un moment, je vous explique et je fais intervenir des gens pour parler de business. Si j'en fais pas, c'est con quand même, c'est qu'on n'a pas compris. Je prends les questions sur Instagram. Alors, elles sont ici. Je vais prendre les questions que j'avais mises dans la dernière story. Alors, il y a plusieurs questions. Encore une fois, c'était dans la story d'hier. Vous pouvez suivre le compte Instagram Romain Lannery. Quel conseil donnerais-tu pour quelqu'un qui aimerait commencer à investir? Regarde ce live. Je réponds. Est-il possible d'investir en bourse en étant sûr d'être toujours rentable?
Ah mais non, il n'y a rien de certain. C'est comme dans la vie, il y a plein de choses qui sont incertaines. Tout le but du jeu, c'est d'aller prendre le niveau de risque qui correspond à celui que tu as envie de prendre.
Ok, et pour toi, le minimum du niveau de risque, c'était... ETF peut-être ou...
Non, tu laisses le cash sur le compte courant, tu touches 4% sans
risque. Oui, t'as raison.
Après, tu veux un truc qui ne bouge pas trop en valeur. Et avec des conditions que tu connais à l'avance, tu as les obligations. Mm. Les obligations, c'est moins volatile. Volatile, ça veut dire que ça fluctue fort ou pas fort.
Ok.
Ça, c'est le deuxième critère. Et ensuite, troisième critère, tu as les actions qui, elles, sont plus volatiles. Donc, elles fluctuent plus que les obligations. Tu peux réduire ton risque en achetant plein de différentes.
Okay.
Donc, la diversification. Mais tu as toujours un risque de perdre ton capital, si tu veux. Tu ne peux pas être sûr d'être rentable. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que si tu restes investi sur toutes les actions du monde pendant 30 ans, là, tu es sûr de gagner.
Très clair. Ok. Schmid, l'argent commence à te monter au cerveau de manière ennuyeuse, t'as bien changé. Non, la différence, c'est qu'à l'époque, je t'expliquais d'acheter un iPhone. Aujourd'hui, je t'explique comment acheter un iPhone. Hello, quand savoir, ça me rend fou, en fait, parce que les gens pensent que parce que tu parles d'argent, t'es un but de ta personne, t'aimes que le fric et tout. En fait, je vais t'expliquer un truc, c'est que il n'y a pas un moment... où j'ai aussi peu pensé à l'argent qu'aujourd'hui. Parce que je fais un truc qui me plaît tellement, qu'on s'investit tellement dans un truc qui nous plaît, que je pense même plus à dépenser du fric ou pas. Je pense que le dernier MacBook que j'ai acheté, c'était il y a 5 ans, alors qu'avant, je devais acheter des produits toutes les semaines pour vous les présenter sur YouTube via Amazon. Et vraiment, je suis tellement transparent là-dessus, et j'ai tellement envie d'essayer de juste... partager des choses pour qu'à la fin vous puissiez repartir avec plus de questions, plus de savoir, plutôt que de juste dire « Ah, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui m'a donné envie d'acheter un iPhone à 1000 balles ». Bah non, en fait, je trouve que c'est pas forcément l'enjeu aujourd'hui d'Internet, mais me dire que là, vous êtes genre près de 500 connectés pour que juste on puisse acquérir, grâce à Vincent ce soir, plus de savoir et plus de questions, je trouve ça vraiment génial. Oui, mais ne s'est pas abonné pour...
Tu peux prendre toutes les questions, il n'y a pas de problème.
Ouais, non, c'est...
Il n'y a pas de filtre.
À quel âge tu t'es mis à t'intéresser à l'investissement? Tiens, c'est une bonne question pour toi.
Moi, j'étais en deuxième année, première ou deuxième année d'école de commerce, donc 20-21 ans, ouais.
Ok.
Parce que, justement, je commençais à avoir des cours là-dessus, et voilà, j'ai commencé à m'y intéresser un peu personnellement, et je mettais un petit peu de côté mon argent d'étudiant, si tu veux, pour investir. C'est comme ça que ça a démarré. Ouais.
Okay.
Et je me suis pris des gros gadins.
Ah ouais?
J'ai fait des pertes de 100% sur des actions. J'ai acheté des mauvais trucs. J'ai acheté un labo pharmaceutique pensant que ça allait révolutionner le truc. Là, pas du gain facile, tu sais. Et puis, en fait, le truc s'est jamais fait. Et l'action, je l'ai toujours. Hein. je suis à 98% de perte. Et j'en revends une petite partie à chaque fois pour compenser les gains que je pourrais faire, si tu veux, fiscalement. Tu
vois. Ok.
Donc oui, gadin.
Mais c'est bien, parce que c'est important. Mais je refais plus. Pour le partager aussi, oui, quand j'ai testé au tout début, même on n'a pas beaucoup parlé de crypto ce soir, mais j'ai fait des super belles conneries. Les effets de levier, tu disais, ah bah, oui, moi c'était rigolo quand tu vois un effet de levier x50.
Je l'ai testé aussi.
Tu mets 100 balles, tu te dis, cool, je vais pouvoir gagner ouais. 5000 ou 50 000. Ouais. Et là, tu vois la seconde d'après, moins 1000.
Allez, terminé.
Voilà, t'es content. Donc, mais par contre, c'est important et c'est pour ça que c'est vraiment important d'expliquer la façon de penser et voilà. J'aimerais tellement, mais ça paraît tellement beau, j'ai peur, j'ai l'impression que vous connaissez votre sujet, mais c'est quoi la différence entre vous et les mecs sur TikTok qui sont en mode « devenez riche », etc., genre « Oussama Amar », etc., j'ai peur de me lancer. Et vraiment, je te remercierai jamais, vraiment, je vous le dis, j'adore ces moments en live parce que je vous le dis très sincèrement, Si je savais gagner des millions tous les jours et que ben non en fait je m'en bande enfin, moi ce qui me plaît là aujourd'hui c'est justement d'avoir ce en fait c'est incroyable et je me dis on rencontrerait pas des personnes comme Vincent tous les jours avec qui on pourrait échanger pendant près de 2 heures et là on allume internet et on crée un truc incroyable où on a accès à ces questionnements, à ces connaissances. Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous allez faire votre propre chemin. Il y a des trucs que vous allez réussir, que nous, on aura échoué. Vous allez échouer des choses que nous, on aura réussi.
Mais merci. C'est pas tout, hein, tu sais.
Vraiment, mais merci pour la question. Donc, tu as raison de la poser. C'est quoi la différence? Je te laisse répondre d'abord. Je trouve ça génial comme question.
La première différence, c'est que je te dis pas que tu vas devenir riche, en fait. Je te dis que tu vas combattre.
Mais déjà, tu as quoi à vendre?
Oh, moi, je vends rien.
T'as un mouvement à 1 euro à vendre à cette personne. Mais c'est ça qui est important de le dire.
Je te vends pas une formation à 3000 euros pour démarrer l'investissement, si tu veux, par exemple. Parce que les mecs, tu me disais tout à l'heure, les mecs qui sont riches et qui vendent des formations, c'est qu'ils sont pas si riches que ça, au final. Donc voilà, c'est ça la différence. La différence, c'est que l'idée de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de vous donner des clés pour pouvoir prendre vos décisions vous-même. C'est pas de vous dire ce que vous devez faire. L'idée, c'est de vous donner des éléments qui vous donneront de la connaissance pour pouvoir comprendre et prendre vos décisions comme des grands, comme vous avez envie, sans que personne puisse vous influencer, en fait. Et c'est ça, l'idée de l'indépendance.
Et ben moi, je vais répondre aussi à la question. Je ne sais pas ce que j'ai à te vendre, puisque aujourd'hui, mon business model, et je l'ai répété plein de fois, moi, je n'ai rien à vous vendre. D'ailleurs, tous les contenus sont gratuits, jusqu'au canal Instagram, où il y a moins de 10 000 personnes encore qui voient certaines choses que je partage vraiment off de chez off. Mon business model et celui de mon agent chez Influx, c'est de créer des opportunités pour des marques, de s'exprimer et d'avoir un retour de la communauté en live. Exemple typique, Trade Republic aujourd'hui avec qui on est en collaboration, nous rémunère à l'année, soutient les contenus pour avoir une prise de parole en direct, recueillir le maximum aussi de feedback. Et à la place, tout simplement, bah, de payer des sondages à droite à gauche, de payer de la publicité télé, de payer... En fait, ça permet simplement des formats plus longs et avec des échanges plus profonds. Voilà comment, aujourd'hui, est en train de se mouvoir l'industrie du numérique et des médias. Et moi, mon business model aujourd'hui, c'est de faire intervenir des marques dans des contenus où les marques ont de la plus-value à apporter par les intervenants. Si j'avais eu un commercial Trade Republic ce soir qui vous explique toutes les 2 secondes les nouvelles fonctionnalités de l'application, je pense que tout le monde se serait fait chier.
On n'a pas de commerciaux.
Ah bon ?
On n'a pas de commerciaux, on n'a pas d'équipe de vente, si tu veux. On est vraiment une plateforme d'épargne, si tu veux. Les okay. gens viennent parce qu'ils ont envie de se... et qu'ils ont déjà pris conscience qu'ils devaient épargner, si tu veux. On n'a pas de... Vraiment, on n'a rien à vendre. C'est une plateforme, donc c'est... Même les 1 euro dont tu parles, c'est des frais de service, du coup, d'exécution d'un service qu'on fait pour nos clients, mais... Il n'y a pas de commerciaux, quoi. Je ne vends pas un produit financier ou...
On continue dans les questions. Est-il conseillé de garder uniquement des actions françaises?
Bah, c'est un peu dur parce que tu tombes vite dans le conseil en investissement. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que ce qui a drivé la croissance mondiale quand même sur les 15 dernières années, c'est la tech US. Donc, si tu n'avais que des actions françaises, tu as raté l'opportunité de bénéficier de la hausse de... des GAFAM et de NVIDIA et de toutes ces boîtes qui font la performance mondiale en ce moment et depuis plusieurs années.
Avoir 80% de crypto, Bitcoin principalement, sur 10 000 euros, c'est bien ou mal?
C'est C'est
tu m'as pas donné, il nous a pas donné son patrimoine total. Si le mec il a un million et qu'il a mis 10 000,
tu vois, mais pas le sujet, c'est le sujet, c'est que c'est potentiellement pas assez diversifié. Je dis pas qu'il va pas faire d'argent, potentiellement ça va bien se passer, potentiellement ça va mal se passer. Moi je trouve ça un peu trop risqué parce que il y a pas assez de diversification.
Bah, sur 10 000 euros, c'est à dire que vraiment, si la personne a 10 000 euros de côté et qu'elle a mis 8 000 euros en bitcoin, soit elle a un super business.
Il y a 6 mois, il était à 15 000, hein, si tu veux. Donc, ouais. Très bien, on est à plus de 70 000 maintenant, mais ça marche dans les deux sens, si tu veux.
Ben oui, bien sûr, ouais. Mais c'est pour ça que je parle vraiment de la répartition du risque. C'est, en fait, ce que j'essaie souvent, parce que souvent, on me pose la question de « Oui, mais toi, Romain, comment t'as investi au début ?» Et en fait, je ne me suis jamais intéressé à l'investissement en premier. Je me suis toujours intéressé à quel problème je règle tous les jours en me réveillant pour lequel je suis payé. Donc d'abord, je travaille sur ma boîte, sur mon activité ou sur mon emploi, créer de la valeur au sein de l'entreprise dans laquelle je suis, etc. Encore une fois, je parle de métier ultra chanceux, je suis créateur de contenu, je ne me lève pas tous les matins à 5 heures pour aller à l'usine. Donc on parle encore une fois à effectivement une communauté restreinte qui a la chance de travailler dans un domaine qui leur plaît et dans lequel ils sont assez libres pour créer plus ou moins de valeur. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, ben là, tu peux commencer à te dire... J'ai un revenu, je sais à peu près voir sur le plus long terme, je sais mettre de côté ça, etc. Mais démarrer en vous disant « j'ai gagné 500 balles ce week-end, où est-ce que je place les 500 euros maintenant ?» ça voudrait dire que tu travailles pour l'argent et que tu veux essayer juste de faire plus d'argent. Et pour moi, c'est la première raison qui peut te permettre de perdre beaucoup. Parce que si tu fais ça que pour la thune et que tu ne t'intéresses pas plus loin, ni à comment tu as gagné cet argent, ni comment le faire... pour aider une industrie ou un secteur avant même d'investir, je pense que c'est une raison d'échec.
Généralement, l'argent que tu as gagné durement, tu l'investis plus intelligemment que l'argent que tu as gagné facilement, si tu veux. C'est un concept potentiellement irrationnel, mais...
C'est pour ça que les générations précédentes investissaient moins qu'aujourd'hui, tu penses? Parce que c'était une économie plus dure, plus... Aujourd'hui, on se connecte à un site internet, on crée un site internet, on peut vendre un produit et on peut faire de l'argent. C'est quand même...
Les opportunités de business sont beaucoup plus élevées maintenant qu'à l'époque, ouais. Complètement. Mais c'est l'évolution de la société, de manière générale, si tu veux. Il y a plein de métiers qui ont disparu, il y en a plein de nouveaux qui sont arrivés. Ton métier n'existait pas il y a 25 ans.
Mmh. Ah oui, quand même, complètement. Et d'ailleurs, c'était... Attends, la stat, c'est... trois métiers sur... Attends. La stat sur les métiers, vous l'avez là dans le chat, on l'avait déjà dit la dernière fois. Le pourcentage... des métiers qui ne sont même pas encore découverts et qui seront pourtant faits dans les prochaines années par une partie de la population. C'est colossal.
Mais ça, c'est un truc important pour ceux qui sont au lycée ou en démarrage d'études, si tu veux, de prendre directement la bonne orientation sur un métier qui est en croissance. J'ai plus de voix. Petit verre d'eau.
Je cherche un petit peu... À quel moment est-il judicieux d'investir? Est-ce un bon premier investissement? Donc ça, on en a parlé. Mettre 1 ou 2 euros sur des entreprises, ça vaut le coup. On en a parlé aussi. Ce qui compte, c'est le fait de démarrer cette boule de neige.
Et de ne pas changer de plan tous les 4 matins. Si tu te mets à investir dans un ETF monde, ne change pas de plan au bout de 6 mois parce que potentiellement, ça a perdu 4%.
Ou que l'autre, il marche mieux. Ou que...
il faut... c'est pour ça que je te dis... Si tu es investi pour ta retraite, tu mets en place le truc, tu regardes plus l'application après. Sinon, ça va créer que des doutes en permanence. Et les émotions, c'est dur à gérer.
Bah, c'est la plus grosse question qui revient à chaque fois que vous m'avez posé sur Instagram, c'est comment je gère la pression et le risque, et moi-même, je ne sais pas le faire aujourd'hui. C'est pour ça que...
Les mains.
Ouais, mais il y a quand même... Enfin, tu vois, on parlait de Nvidia tout à l'heure en off, et tu me disais, ah, Nvidia, je l'ai loupé et tout.
Je l'ai loupé.
Nvidia, je vous le dis, j'ai fait x2. Il y a de ça 4-5 ans à peu près, j'avais investi, je sais plus, l'équivalent de 10 000 euros sur Nvidia au fur et à mesure. J'ai fait x2, je vois les actions avec une valeur de 20 000. Je me dis, non, je suis jeune, je ne peux pas passer à côté, je prends mon gain. Ouais. Et peut-être que si c'était à refaire, je récupérerais l'investissement de départ et je laisserais aujourd'hui les 50% de gains. Ouais. C'est peut-être une stratégie qu'aujourd'hui j'adapterais. Tu vois.
C'est ce que font les traders un peu plus avertis, c'est-à-dire qu'ils ont des TP1, TP2, TP3, donc ils connaissent à quel prix TP c'est pour take profit.
Ouais.
Donc ils savent qu'à quel prix ils vont vendre 20% de la position, à quel prix ils vont revendre 50%.
D'accord.
Et ainsi de suite, tu vois. C'est des plans assez, assez techniques. Après, tu vois, le Nvidia, je te disais, ouais, c'est dommage que je l'ai loupé, mais en fait, je ne l'ai pas vraiment loupé parce que Nvidia, elle est dans mon ETF monde, elle est dans un ETF Nasdaq.
Ah,
sur
oui,
lequel j'investis
sens, oui, dans
en DCA depuis longtemps, si tu veux.
D'accord.
Donc, ça contribue aussi à la performance, mais plus diversifiée.
Tu appelles ça du lobbying? J'aime bien le commentaire. Le lobbying Trade Republic tourne à plein régime chez Influx. Ah, bah, si le lobbying, c'est d'expliquer comment préparer sa retraite, parce que encore une fois, ce qui est dingue, c'est que vous entendrez, enfin moi, c'est même moi qui défends plus Trade Republic que Trade Republic eux-mêmes. Vincent a commencé par dire qu'il y avait plusieurs plateformes sur lesquelles on peut investir en citant plusieurs banques, etc. Donc je pense que là, on fait simplement de la transmission d'infos, de savoir. Enfin moi, en tout cas, c'était le but, c'était de faire intervenir des personnes qui puissent vous inspirer tout simplement et vous permettre de vous poser plus de questions. Je regarde un peu l'Iban français. Oui, ça, t'en as parlé. Ça va arriver. Ok.
C'est lié. C'est lié. Il y a quelqu'un qui pose aussi pourquoi vous n'êtes pas plus transparent sur les gains que vous avez avec le paiement forward order flow. Bah déjà, on est très transparent parce que sur chacune des transactions que tu passes.
C'est quoi sur... Attends, parce que.
C'est alors là, on sort du côté débutant, mais nous, on travaille avec des bourses qui sont plus petites que par exemple Euronext, qui est la bourse principale en France. Parce que déjà, c'est beaucoup moins cher et c'est ce qui nous permet de proposer des frais à 1 euro, si tu veux.
D'accord.
Et cette bourse, comme elle est naissante d'un point de vue business, nous, elle nous rémunère pour amener du volume chez eux.
D'accord.
Ce qui ne change rien au prix d'achat en fait. Et de vente des titres, si tu veux, qui sont contrôlés exactement les mêmes que sur les marchés traditionnels.
D'accord.
Ça ne change rien d'un point de vue client, sachant que nous, du coup, elle nous rémunère en partie pour envoyer du volume sur cette bourse-là. Et donc je comprends pas pourquoi on me dit pourquoi on n'est pas transparent, parce que sur chaque transaction que tu fais, tu as un relevé qui t'est donné dans l'application, et sur ce relevé, tu as très évidemment d'indiquer le montant que Trade Republic perçoit de la part de cette bourse pour la transaction que toi tu as faite.
J'espère, Alex, j'ai vu que tu l'avais posé plusieurs fois la question, les limites du spam, je te le dis quand même, mais je l'ai vu plusieurs fois, j'espère que qu'on l'ait sélectionné et au moins Vincent y a répondu.
Ouais, et après, c'était juste pour le côté transparence, et après, en fait, il n'y a même plus de sujet, parce que c'est une pratique qui, à tort, a été bannie par la loi, en fait.
D'accord.
Donc ça s'est simplement arrêté, si tu veux.
D'accord.
Ça ne change rien, c'est juste qu'on ne perçoit plus de rétrocession de cette bourse-là, donc en France, donc il n'y a pas de sujet.
Il y a une question super intéressante de Trigger M. Bonjour, si l'éducation financière que vous prenez fonctionne et que la majorité de la population se retrouve à investir sur des produits ETF dans les années à venir, quelles seront les conséquences sur les marchés? C'est intéressant, c'est vrai.
C'est la théorie de la bulle des ETF.
Ah ouais?
Ouais, j'ai vu quelques,
j'ai jamais entendu
quelques
ça
personnes
encore.
En parler.
Ça veut dire donc que tu as tellement plus de monde qui détient des ETF que tu peux avoir beaucoup plus de mouvements.
Ouais, mais sauf qu'en fait, on n'est pas sur ces niveaux-là, si tu veux. Déjà, le marché des obligations, de la dette, est une fois et demie plus gros que le marché des actions, si tu veux. Donc ça, déjà, les marchés financiers, c'est essentiellement des obligations avant d'être des actions.
D'accord.
Et après, les ETF, ça représente pour l'instant une part significative, mais pas, il n'y a pas 80% d'ETF sur le marché, si tu veux. Sinon,
ouais.
Il n'y aurait plus personne qui ferait rien. Ouais.
Vous pourrez retrouver en tout cas l'échange qu'on a eu là avec Vincent en podcast. Vous pouvez taper Romain Lanéry sur Apple Podcast, Spotify. Vous avez aussi le Lo-Fi Mix, ça n'a rien à voir, mais c'est des mix. Si vous avez envie de bosser avec des albums de 45 minutes, on a réutilisé les meilleures citations, meilleurs conseils d'entrepreneurs, de CEO qu'on a reçus dans les 20 minutes avec notamment et dans les autres interviews. Est-ce que ça vous a plu? Mais je suis trop content, je pense, de ces échanges qui, j'espère, vous auront fait naître encore plus de questions du grand Mendes. Magnifique, vraiment top, super, merci infiniment en tout cas. J'espère que vous avez passé une bonne soirée ou un bon contenu. Si vous avez réécouté ce contenu-là, n'hésitez pas encore une fois à laisser les 5 étoiles sur le podcast et les commentaires, même sur YouTube, quand c'est des rediffusions. Merci beaucoup, merci Vincent d'avoir
merci
été avec nous.
Merci pour l'invitation.
C'était trop cool. Je vous dis à très vite. Passez une bonne soirée et voilà, et à très bientôt.